끝에 보고 끝에 잘도 끝에 세리고 끝에 말이 펴 끝에 놓고 Accelerating that for elevate Accelerating that for adorate Accelerating the moment Célébration de toute exaltation. Personne n'est digne d'être glorifié, d'être honoré en ce lieu. Personne n'est digne d'adorer. Alors je chanterai à ton nom, je publierai tous tes bienfaits, j'annoncerai tes offrandes. De notre célébration, de toute exaltation. Car qui est comme toi? Qui oserait se comparer à toi? Non, personne. Tu as créé le ciel et la terre par ta parole. Qui est semblable?
Qui est semblable?
Au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent. Les océans rugissent. Devant toi le Seigneur.
Devant le Seigneur.
Chantons qui est semblable.
Qui est semblable.
Au lion à l'agneau.
Assis sur le trône.
Tu es assis sur le trône et tu règnes en majesté.
Les monts s'inclinent
et les océans rugissent. Devant toi le Seigneur. Oh, nous chantons qui est semblable à toi.
Qui est semblable.
Le lion de la tribu de Juda, tu es. Assis sur le trône, les monts s'inclinent, les océans rugissent devant le Seigneur. Et loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Les nations du monde, tous les anges et tous les saints. Chantez gloire à notre Dieu, chantez gloire toi notre Père. Alléluia, car tu règnes d'éternité en éternité. Le chant des rachetés qui s'élève des plaines africaines. C'est le chant des pardonnés, plus fort que les pluies d'Amazonie. Le chant des chrétiens d'Asie, rempli d'esprit et de feu. Toutes les tribus, tous les peuples, toutes les nations. Quel choral t'offre ce chant d'amour,
Père des enfants.
Père des enfants,
chante gloire.
Et chante gloire,
alléluia.
Entends tes enfants te chanter au Père.
Père des enfants, chante gloire, gloire.
Alléluia, tu règnes.
Alléluia, tu règnes.
Nous chantons gloire, alléluia.
Père des enfants, chante gloire.
Nous annonçons tes hauts faits. Je raconterai tous tes bienfaits.
Alléluia, tu règnes.
C'est le chant des rachetés. C'est le chant des rachetés.
C'est le chant des rachetés
qui s'élève des plaines africaines. Oh, nous pouvons pousser des cris de gloire.
C'est le chant des
esclaves pardonnés.
Contre les pluies d'Amazonie.
Le chant des chrétiens d'Asie, remplis d'esprit et de feu. Rempli d'esprit et de feu. Toutes les tribus, tous les peuples, toutes les nations. C'est le choral. Encore une fois, nous chantons. C'est le chant des rachetés.
C'est le chant des rachetés qui s'élève des plaines africaines.
Oh, c'est le chant des pardonnés. Plus fort que les pluies d'Amazonie. Le chant des chrétiens d'Asie,
le chant des chrétiens d'Asie,
rempli d'esprit et de feu. Toutes les tribus, tous les peuples, toutes les nations,
tous les peuples, toutes les nations, et tout le monde se chante.
Nous chantons gloire, alléluia. À toi notre Dieu, à toi notre Père, à toi notre roi, alléluia. Tu règnes. Père, tes enfants chantent gloire.
Alléluia. Alléluia, tu règnes.
Oh, toutes les puissances des ténèbres tremblent au seul son de sa voix. Car toutes les puissances des ténèbres se dispersent devant sa sainte parole. Toutes les puissances chantent de
toutes les puissances des ténèbres
tremblent au seul son de sa voix. La voix du Tout-Puissant, du Dieu très haut. Oh, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Se
dispersent devant sa sainte.
Encore une fois, toutes les puissances des ténèbres.
Toutes les puissances des ténèbres
tremble au son de sa voix. Car toutes les puissances des ténèbres,
car toutes les puissances des ténèbres se dispersent devant sa sainte parole.
Père des enfants, chante de gloire.
Père des enfants, chante de gloire.
Nous chantons gloire, alléluia.
Alléluia, tu règnes.
Tu règnes d'éternité en éternité. Nous chantons gloire.
Père des enfants, chante de gloire.
Établis ton trône dans nos vies.
Alléluia, tu règnes.
Et nous chantons alléluia.
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 Alléluia. Tu
règnes. Nous chantons alléluia.
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 Alléluia. Tu règnes.
Ton peuple chante alléluia.
Alléluia. Alléluia. Tu règnes.
Père des enfants. de la louange de ton peuple. Alors reçois favorablement tes enfants, ils te chantent gloire, alléluia. Vers tes enfants chante gloire.
Tes enfants chantent gloire, gloire. Alléluia, tu es.
Oh, 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 nous chantons très digne de gloire.
Très digne de gloire.
Saint, très saint.
Saint, très saint.
Très digne de gloire.
Très digne de gloire.
Tu es. Éternité en éternité. Oh, est-ce qu'un racheté peut pousser des cris de joie, peut faire monter des acclamations à celui qui est, qui était et qui vient. Nous voulons rentrer dans ta présence. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons contempler ta sainteté. Oh, je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées.
Je veux t'adorer, Père. C'est vrai que tu es digne. Tu es digne de recevoir notre adoration et notre louange. Nous voulons faire monter vers toi en ce jour un parfum de bonne odeur qui vient de nous, parce que nous voulons tout simplement reconnaître que tu nous as créés pour t'adorer. Alors reçois notre adoration.
Je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je retrouve la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh.
Je reconnais que toi, tu es la seule personne la plus importante dans ma vie. dans mon cœur. Alors je veux rester focalisé, focalisé en toi. Et je retrouve la joie de te chanter. Je veux tout simplement poser ma vie à tes pieds. Parce que toi tu me rends fort. Parce que tu as tout ce dont j'ai besoin. Oui, il n'y a que toi.
C'est ma raison d'exister. C'est la raison pour laquelle mon frère, ma soeur et moi-même avons été créés. C'est la raison d'être de chaque personne ici présente. Seigneur, si j'ai des yeux, c'est pour t'adorer. Si j'ai des oreilles, c'est pour t'adorer. Si j'ai des mains, c'est pour t'adorer. Si j'ai une voix, c'est pour t'adorer. Si j'ai une langue, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si j'ai un corps, c'est pour t'adorer. Si j'existe, Seigneur. Si tu m'as formé avant la fondation du monde, tu m'as créé. Et si un jour tu m'as formé, Seigneur, c'est pour t'adorer. Ce n'est pas d'abord pour autre chose, non, c'est pour t'adorer. Tu as dit que tu recherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Tes yeux parcourent la terre ce matin à la recherche de quelqu'un qui t'adore en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes là et nous te disons, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te rendre un culte en dépit des circonstances, en dépit des challenges, en dépit des défis. Peu importe la saison, peu importe si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah, je ne craindrai aucun mal et je dirai que ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison d'exister, ma raison d'être, c'est de t'adorer, Seigneur. Seigneur, tu es ma raison d'être. Tu es la raison d'être de mon frère. Tu es la raison d'être de ma sœur. Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, ces choses qui étaient pour nous des gains, Seigneur, nous les regardons comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour lequel nous avons renoncé à tout. Nous regardons, Seigneur, toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec notre propre justice, Seigneur, mais celle, Seigneur, qui vient de toi par la foi. Voilà pourquoi je dis que c'est ma raison de vivre. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, Rabba Santa Rabba Shikandaba. Ah, Seigneur, apprends-nous à t'adorer. Nous ne savons pas t'adorer. Saint-Esprit, intercède, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Adore au travers de nous, que nous soyons juste des instruments, des vases d'adoration. Seigneur, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas chanter, nous ne savons pas adorer. Seigneur, Saint-Esprit, prends le relais, prends le contrôle, Seigneur. Nous te rendons un culte ce matin. Seigneur, nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Seigneur, nous voici devant toi. Augmente notre passion, augmente notre dépendance à toi, Seigneur. Nous t'en supplions. Ah, Seigneur, quelqu'un ici est reconnaissant pour pousser des cris de joie vers toi, des cris de gratitude. Quelqu'un qui n'est pas venu écouter un homme, quelqu'un qui n'est pas venu pour recevoir en premier, mais quelqu'un qui est venu pour rendre un culte, pour donner quelque chose de précieux à Dieu, son cœur. Seigneur, tu n'as désiré ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Je suis le sacrifice, Seigneur. C'est la raison pour laquelle j'existe. C'est la raison pour laquelle mon corps a été formé, mon esprit a été créé, mon âme a été déposée dans ce corps. C'est la raison pour laquelle je vis, pour laquelle je marche, pour laquelle je peux me mouvoir, pour laquelle je peux me lever, Seigneur. C'est la raison de ma vie, de ma destinée. Oh, la basse. Oh, est-ce que quelqu'un peut le chanter? C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison, c'est la raison.
C'est la raison pour laquelle je vis.
Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Oh, est-ce que tu peux rendre gloire au Seigneur ce matin? Si tu reconnais qu'il t'a transféré les ténèbres à ton admirable lumière, si tu reconnais que tu n'étais rien hier, mais aujourd'hui tu es quelque chose en lui, alors pousse des cris de joie. Alléluia. 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 Il y a de la joie dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, pousse des cris de joie, des cris d'allégresse vers le Seigneur. N'attends pas ton voisin. Dieu n'a pas attendu que quelqu'un fasse quelque chose pour toi. Il est venu te chercher tel que tu étais. N'attends pas que quelqu'un te pousse à adorer. N'attends personne. Rends un culte à Dieu ce matin. Alléluia. Je ne laisserai pas les pierres crier à ma place. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à ICC, un pacte centre chrétien, l'une des nombreuses ambassades du royaume de Dieu, un endroit ordinaire où la présence extraordinaire du Saint-Esprit fait des miracles dans nos vies, transforme nos vies, réécrit l'histoire de nos vies, donne une nouvelle trajectoire à nos vies. Si tu te sens concerné par cette déclaration, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Avant de prendre place, prends le temps de saluer l'excellence qui se trouve à gauche, à droite, dis-lui tu es au bon endroit, au bon moment, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Nous voulons aussi prendre le temps de saluer la grande famille ICC répartie dans les 11 campus et dans le 12e campus, le campus internet. Soyez les bienvenus, vous êtes connectés à la bonne source, vous avez cliqué sur le bon lien. Amen. Alors que nous prenons place, nous avons quelques annonces importantes à vous communiquer et je vais demander toute votre attention durant quelques instants. Donc en cette fin d'année, nous désirons vraiment intensifier la prière afin de finir l'année 2013 de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec la personne du Saint-Esprit. Nous désirons vraiment voir le Seigneur agir puissamment, nous désirons voir sa gloire se manifester. Voilà pourquoi nous allons passer cette semaine avec lui dans le jeûne et dans la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cette semaine, donc, nous aurons notre semaine de jeûne et prière à partir de demain, lundi 25, jusqu'au vendredi 29 novembre, au campus Paris Sud-Est, ici même. Donc, nous nous retrouverons tous les soirs de 19h30 à 20h45 pour expérimenter la communion du Saint-Esprit. Et nous nous retrouverons, bien sûr, à notre culte hebdomadaire, atmosphère de gloire, de 19h30 à 21h30. Donc, comme Jacob a vu l'échelle un jour, nous allons créer un couloir entre les cieux et la terre. Les anges vont monter, vont descendre, et l'armée des cieux va opérer avec puissance dans nos vies. Amen. Donc, nous allons venir nombreux cette semaine, du lundi au vendredi. Nous nous retrouverons ici à partir de demain. Alors, comme vous le savez, il y a à peu près 3 semaines, nous avons eu un excellent séminaire avec le pasteur Matthew, qui était là. Qui a été béni. Donc dans cette dynamique, le thème de ce séminaire était « Posséder votre héritage dans le domaine des finances ». Et nous avons été richement bénis et maintenant nous voulons poser des actes concrets. Mais avant de poser des actes concrets dans le domaine des affaires, il est important d'être conseillé et équipé de manière pratique. Et dans cette dynamique, nous avons le plaisir de vous convier à la journée de l'entrepreneuriat édition 2013 qui aura lieu samedi 30 novembre prochain. Donc samedi prochain de 10h30 à 18h ici même au campus de Boissy-Saint-Léger. Avec l'intervention de notre pasteur principal, le pasteur Ivan. Donc le thème de cette première édition est « Devenir entrepreneur et créateur de richesses ». Amen. Qui croit que c'est une bonne idée? Donc au programme, il y aura des conseils sur la création de richesses, le type de forme juridique à adapter à sa structure, des clés pour entreprendre et réussir dans son couloir, mais également comment passer de l'idée à la réalisation de son projet. Nous allons avoir aussi des témoignages de créateurs d'entreprises et des séances pratiques sur comment rédiger des business plans, comment investir dans l'immobilier, etc. Donc ça va vraiment être riche. Et si vous êtes résolu et déterminé à posséder votre héritage dans le domaine des affaires, nous viendrons tous ici nombreux samedi prochain à partir de 10h30. Amen. Pour plus d'informations, contact@impactcentrechretien.com. Il y aura aussi un rendez-vous très important pour nos bien-aimés de la Guadeloupe, du campus de la Guadeloupe. Impact Centre Chrétien Guadeloupe donc a le plaisir de nous convier à un séminaire spécial qui se tiendra du vendredi 12 au dimanche 15 décembre 2013 avec le pasteur Ivan au campus de Guadeloupe. Donc l'adresse s'affiche sur les écrans. Le thème de ce séminaire est « Découvrez et possédez votre héritage ». Nous croyons de tous nos cœurs que c'est le bon moment pour entendre ce message, pour recevoir ce message et nous voulons le répandre partout où nous allons. Voilà pourquoi nous allons venir nombreux. Si vous connaissez du monde en Guadeloupe, si vous avez de la famille, si vous avez des amis, n'hésitez pas à inviter le maximum de personnes. Donc du vendredi de 18h30 à 21h30, le samedi de 17h à 20h et le dimanche, il y aura deux sessions de 8h30 à 10h30 et de 11h à 13h. L'entrée, bien sûr, est gratuite et la participation est libre. Si vous habitez donc dans les alentours, si vous connaissez du monde, invitons le maximum de personnes. Et enfin, cette année encore, le ministère des Jeunes d'Impact, qui est un ministère très dynamique, où il se passe vraiment d'excellentes choses. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'un jeune peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Amen. Quelque chose est en train de se passer dans cette jeunesse. Et cette année, donc, nous allons fêter la nouvelle année ensemble avec les jeunes. Donc il y aura ce qu'on appelle la soirée prestige qui sera organisée le 31 décembre de 20h jusqu'à l'aube. Donc cette soirée spéciale se déroulera dans une salle très solennelle à Vitry-sur-Seine et nous serons connectés en direct avec le campus de Boissy pour entendre le mot du père de la maison, le pasteur Ivan. Il y aura aussi là-bas des animations surprises, d'excellents programmes. Donc la date limite d'inscription est le dimanche 22 décembre. Les places sont vraiment limitées et le temps passe vraiment vite. Donc c'est une bonne opportunité pour nous de nous inscrire directement à la fin de ce service. Il y a un stand à côté de la librairie dans la grande salle des enfants ou alors vous pouvez écrire sur le Facebook MJI, le jeune d'impact, pour plus de renseignements. Donc je peux te dire une chose, si tu es jeune et si tu désires passer d'excellents moments, rentrer dans la nouvelle année avec des jeunes qui sont passionnés de Dieu, tu seras le bienvenu, il va se passer de grandes choses. Amen. Je vais demander maintenant à tous ceux qui le peuvent de bien vouloir se tenir debout. Nous allons passer un moment très important, le moment des dîmes, le moment des offrandes. Nous allons amener à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Nous avons compris qu'il est important de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et il donne de la semence au semeur. Donc plus tu sèmes, plus il te donne de la semence. Plus tu sèmes, plus il te donne de la semence. Amen. Donc nous allons prier maintenant. Tendre Père, merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore te rendre un culte ce matin. Nous savons que le culte ne dépend pas juste de nos voix, mais Seigneur, tu regardes nos cœurs et Seigneur, tout ce que nous pouvons te donner, tout ce qui nous appartient, nos dons, nos talents, notre temps, nos trésors, Seigneur, t'appartiennent. Que ces offrandes, Seigneur, soient multipliées dans la vie de ton peuple. Par ces dîmes, Seigneur, tu menaces celui qui dévore, tu enlèves les jougs de l'endettement, de l'étranglement financier, du manque, de la pauvreté, du dessus de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus, et tu nous fais prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Agrée ces dîmes, agrée ces offrandes, dans le nom précieux de Christ. Amen, amen, amen.
Acclamons le Seigneur, nous pouvons continuer encore à l'acclamer. Nous voulons tout simplement le louer, lui dire que nous lui abandonnons tout ce que nous avons. Parce qu'il a déjà tout payé, il a déjà tout pris pour nous.
J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes hantes, puis j'abandonne tout pour recevoir sa joie. J'abandonne mes tristesses. recevoir sa joie. J'abandonne mes faiblesses, j'abandonne toutes mes peines, puis j'abandonne tout pour recevoir sa joie. J'abandonne mes tristesses,
j'abandonne mes
Reçois la louange, amen. Reçois la louange. ce matin. Un amoureux de Dieu ce matin. Reçois, reçois, reçois. Le cœur attentionné, passionné. Que lui cesse ce matin, reçois. Y a-t-il un passionné qui veut lui dire ce matin? Reçois, reçois, reçois. Sois élevé, magnifié. Exalté, élevé. Adoré, magnifié. Honoré, élevé. Reçois, reçois, reçois.
Reçois la louange. Amen.
Alléluia. Reçois la louange. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. L'exaltation. Reçois la louange ce matin. Oh, sois honoré ce matin. Seigneur, prends tout l'espace ce matin. Occupe l'espace de nos vies, de nos tentes. Occupe ce sanctuaire. Élargis nos voix dans le nom de Jésus-Christ. Établis l'ordre divin ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que dans nos vies, que dans ce lieu, ton ordre divin soit établi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Opère restauration. Opère prodige, opère guérison, opère transformation, opère affranchissement, opère délivrance dans le nom de Jésus. Fais tomber des fardeaux ce matin, qu'un jour soit brisé sur nos vies, dans le nom de Jésus le Christ ce matin. Qu'un étau soit enlevé, un étau qui est bloqué, soit ôté ce matin. Dans le nom de Jésus. Oh, Maya Derevose, Kenya Mamama. Ce matin, réveille une foi. Réveille quelqu'un. Réveille un esprit qui est assoupi. Réveille dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Maya Derevose. Sois élevé ce matin. Sois couronné. Sois magnifié. Disons Amen. Amen, Amen. Quelqu'un te dit Amen. Ensemble disons Amen. Amen, Amen, Amen. Disons Amen. Amen, Amen, Amen. À ta venue, à ton règne, nous disons ce matin. À ta puissance, à ta force, à ta gloire libérée sur nous, nous disons
Amen.
À ton règne dans nos vies,
Amen.
À ta puissance sur nous,
Amen,
Amen, Amen, Amen,
Amen.
À l'onction qui libère,
Amen.
L'onction qui affranchit, l'onction qui enseigne, nous disons Amen.
Amen.
Ce matin relève,
Amen.
Ce matin affranchit, reste en délire. Ta présence,
Amen.
À ton esprit saint,
Amen.
À ta puissance dans nos vies, dis-lui ce matin,
Amen.
Je reçois ta vie,
Amen.
Ta puissance,
Amen.
Et ta gloire, je dis Amen,
Amen.
À ta volonté,
Amen.
À tes plans parfaits,
Amen.
Quelqu'un ce matin vont dire Amen,
Amen.
À tes plans parfaits,
Amen.
À tes bonnes œuvres,
Amen.
Tes desseins merveilleux. Nous disons,
Amen.
Viens régner, viens faire ta volonté.
Amen.
Ton Seigneur, Seigneur,
Amen.
Une échelle soit établie entre les cieux de la terre, dans le nom de Jésus.
Amen.
Et que les anges montent et descendent au son de ta voix et accomplissent ta volonté.
Amen.
Nous disons Amen, Amen,
Amen.
À ta volonté,
Amen.
À ta bienveillance,
Amen.
À ton esprit saint, nous disons. Toi. grâce. Seigneur, démontre ta présence. Opère des guérisons, transformation. Touche un cœur ce matin, nous disons. Restaure un cœur, restaure une âme blessée. Amen, amen, amen. Envoie ta parole. Qu'elle guérisse.
Amen.
Qu'elle fasse échapper des fosses. Amen.
Amen.
Amen. Ainsi soit-il. Fais comme tu veux. Pour tout l'espace. Amen.
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 Amen. Amen. Seigneur, ce matin, disons amen à ta volonté. Amen au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, enseigne. Seigneur, ce matin, parle-nous. Ce matin, envoie ta parole. Que personne ne reste insensible à ta présence. Que personne ne reste imperméable à ta parole. Que ta parole soit enfouie au plus profond de nous-mêmes. Et qu'elle apporte transformation, métamorphose et repentance. Métanoïa véritable dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Que ta parole ce matin amène ajustement, redressement dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de que ta parole puisse trouver, puisse ensemencer nos cœurs. Et qu'un fruit sorte, qu'un arbre sorte, que cet arbre sorte un fruit appelé digne de la repentance, digne de gloire à ton nom. Un fruit qui témoigne de ce que tu es, de ta bonté, de ta fidélité, de ta capacité à aimer, à sauver, à guérir, à restaurer. Ce matin, rallume la soif, ranime le zèle, ranime la passion ce matin. Ranime ma feu qui était éteint, ranime ma zèle qui était endormie. Ranime une soif qu'on avait éteint, ranime une vie au nom de Jésus. Seigneur, ranime, ranime. Ranime, nous t'en supplions, ranime. Remets la vie, là où il n'y avait plus de vie. Dans le corps, dans les âmes, dans les vies. Seigneur, ce matin, nous n'avons jamais dit que nous étions capables. C'est toi qui es capable, homme. Alors donne gloire à ton nom et à ton bon sang. Que tout soit tourné vers le roi de gloire. Nous promettons te donner gloire à toi et à toi seul. Je veux, j'accepte et je désire disparaître. Disparaître afin que toi seul sois entendu ce matin. Fais-nous, ne nous fais pas que du bien et continue à nous façonner jour en jour, jour après jour à ton image de gloire en gloire. Fais-le ce matin. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, donne gloire à toi. Que sur les cieux, dans les cieux, sous les cieux et sur la terre, et même sous la terre, qu'un seul nom soit élevé, qu'un seul nom soit célébré, qu'un seul nom soit magnifié, qu'un seul nom soit invoqué, qu'un seul nom soit aimé, qu'un seul nom soit revendiqué, qu'un seul nom soit acclamé. Le nom de notre Seigneur, de sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, si on peut encore acclamer le Seigneur notre Dieu.
Amen. Peux-tu prendre le temps de saluer ton frère, ta soeur? Dis-lui bonjour excellence, bonjour autorité, bonjour majesté, bonjour sénateur, bonjour frère. Que plus ton plus beau sourire. Fais-lui ton plus beau sourire, ton sourire émaille diamant. Dis que tu es heureux, je suis heureux que tu sois à mes côtés ce matin. Tu as fait le bon choix, amen, veuillez prendre place.
Bienvenue à... Tout le monde m'entend bien? Au fond, ça va? Faites comme ça si vous m'entendez bien, au fond. Vous m'entendez bien? Soyez bienvenus à tous, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à un pas de son de chrétien ce matin. Bienvenue à notre famille internaute. Bienvenue à tous les campus. Je salue ce matin tous les campus et particulièrement mon campus. Quoi, mon campus, pas mon campus. Un campus, il n'y a pas de son de chrétien. Vous avez les salutations ce matin. J'ai apporté les salutations. Je n'ai pas pu apporter ni le soleil ni la chaleur, désolé. Vous avez les salutations du campus de la Martinique qui vous salue bien chaleureusement dans le nom du Seigneur Jésus. Et vraiment, quelques-uns parmi nous, parmi vous, ont eu l'occasion de nous visiter. Et vraiment, Dieu fait de belles choses là-bas. Ah, quelqu'un me dit un bon amen. Dieu fait de belles choses. Les choses avancent. Ils sont à deux cultes, bientôt, ils sont bientôt pleins les deux. Alors, j'aimerais pas devenir comme vous trois cultes. J'ai dit Seigneur, pas ça, pas tiens, pitié, parce que déjà là c'est compliqué. Pas ça, mais il faut vraiment sa volonté. Amen. Et vraiment, c'est une grâce d'avancer là-bas. Nous avons une famille merveilleuse, vous avez des frères et sœurs merveilleux en Martinique. Ah oui, vous avez des frères et sœurs merveilleux là-bas. Et vraiment, nous vous invitons vraiment à les rencontrer. C'est une belle famille, hein, pas de son de chrétien. Ce matin, je suis de retour chez moi. Content de te voir. Moi, content, ouais, Zot. Bon, je suis content de te voir, faute de traduction, parce que je suis content de vous voir, content d'être à la maison. Amen. Avant de commencer également, je voudrais vraiment demander, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le père de la maison, pour le pasteur Yvan et tout le collège pastoral, vraiment. C'est une grâce. Et pour toutes les stars, tous les serviteurs qui travaillent pour le royaume, que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Yvan est en déplacement. Dépassement ce matin, il fait le ministère là où il est. Il m'a donné ce privilège, je considère que c'est un privilège pour moi, parce que vous savez, servir Dieu c'est un privilège. Servir Dieu est vraiment un privilège, peu importe ce que tu fais, quoi que tu fasses, rappelle-toi toujours, c'est un privilège pour toi. Dès lors où tu l'oublies, ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux pour toi. Rappelle-toi toujours que servir Dieu est un privilège qui m'est accordé. Amen. Et ce matin, vraiment, c'est un privilège pour moi d'être là et de partager sa parole avec vous. Amen. Depuis quelques semaines, nous sommes grandement édifiés par le pasteur Yvan sur un thème qui a été développé, qui est faiseur d'exploits. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un faiseur d'exploits? Je suis un faiseur d'exploits. Je suis un faiseur d'exploits. C'est le thème que nous développons depuis quelques semaines. Et je souhaiterais apporter ma contribution à ce thème. On va continuer dans cette voie-là ce matin. Et je voudrais vous parler d'une caractéristique que possèdent tous les faiseurs d'exploits. Quelque chose qu'ils ont tous en commun. Ceux qui font des exploits pour Dieu je précise, ils ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils connaissent Dieu. Oh, dis-moi, ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. Ce matin, le titre de mon message, c'est l'intimité avec Dieu, ou l'intimité de Dieu. L'intimité avec Dieu, une clé pour les faiseurs d'exploits. L'intimité, une clé pour les faiseurs d'exploits. Au travers de la série Connaître Dieu, on avait vu ensemble, l'année dernière, qu'il existait trois types de connaissances, ou trois manières de connaître Dieu. La connaissance par information, la connaissance par interaction et la connaissance par intimité. Et à chaque type de connaissance, que ce soit par information, par interaction, par intimité, à chaque type, il y avait différents niveaux de connaissance. Et on a vu qu'en fait, quand Dieu parle de connaître, Dieu n'a pas la même pensée que les hommes. Et quand Dieu parle de connaître, nous avons vu qu'il parlait d'avoir une intimité avec Dieu. Dites-moi intimité. Il parle d'avoir une intimité avec Dieu. Et dans le grec, c'est epignosis. Epignosis, c'est le nom. Epignosis, c'est le nom. Epiginosko, c'est le verbe. Et connaître Dieu, en fait, tout simplement, c'est parvenir à développer, à maintenir entre Dieu et toi une relation intime, profonde, pleine, entière, une fusion, une relation passionnelle. Comme un homme et une femme. Après quelques temps, ils se sont mariés, ils ont appris à se connaître, ils ont fait des efforts, ils ont vécu ensemble. Et ça arrive à un moment donné où ils ne se parlent même plus. Deux regards, ils ont fait 10 minutes de conversation. Ils ont tout dit en deux regards. Ils se connaissent tellement, tellement. Et c'est ce que Dieu veut avec toi. Quand il parle de connaissance, il parle de ce type d'intimité, de ce type de connaissance. En fait, c'est un niveau où, en fait, Dieu contrôle ta vie. Dieu gouverne ta vie. Tout ce que tu désires, c'est Dieu. Tout ce que tu veux, c'est... Tout ce qui peut te plaire, c'est... Tout ce qui te satisfait, c'est... Tout ce dont tu as envie, c'est... C'est seulement ça. On parle de ça quand on parle de connaissance. Ce niveau... où tout en toi est tourné et centré autour de lui. Autrement dit, quand on parle de connaître Dieu, c'est cette relation intime, intense, profonde, complète, entière. Et vois-tu, cette relation, elle est progressive. elle est progressive. Et voyez-vous, c'est le même type de connaissance que Jésus avait de Dieu le Père. Il dit dans Jean 7, verset 29, « Moi, je le connais. » Et dans le grec, c'est épiginosko. « Car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Et bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Toi aussi, tu peux avoir ce même type de connaissance avec Dieu. Toi aussi, tu peux avoir le même type. Et tu même pas, tu peux. Tu dois avoir le même type de connaissance avec Dieu. Et Paul l'avait bien compris. Regardez, venez avec moi dans Éphésiens. Vous avez vu, Paul a établi des églises. Mais quand il prie pour ces églises, il n'avait pas pour leur dire, gardez votre salut. Il va plus loin que ça. Il n'est pas pour leur dire, hé, les gars, gardez la foi. C'est pas que ça. Il va plus loin que ça. Paul fait une prière. Éphésiens 1, verset 17. Nous allons quelque part. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ou encore, afin que vous connaissiez Dieu. Et là encore, c'est épignosis ou épignosco, c'est encore l'intimité. Autrement, il est en train de dire, ok, vous amenez au Seigneur. Vous êtes venu à Christ, gloire à Dieu. Mais ne vous arrêtez pas là. Allez plus loin. Vous devez devenir des intimes. Il le répète encore. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. C'est que ton amour de Dieu augmente de plus en plus en connaissance de la vérité. Qui est la vérité? C'est une personne appelée Jésus-Christ. La vérité est une personne qui est appelée Jésus-Christ. Autrement dit, en fait, plus tu connais Dieu, plus ton amour même augmente en réalité. Plus tu deviens intime, tu sais, j'en développerai plus tard, mais tu vas voir que c'est pas au niveau de puissance ou de choses que tu vois que c'est quelqu'un intime avec Dieu. Tu le vois au niveau d'amour qui manifeste. Au niveau d'amour qui manifeste indique le niveau d'intimité qu'il a avec le Seigneur. J'arrive. En fait, j'ai compris une chose. C'est que la mission de l'Église, c'est de faire de toi un intime de Dieu. La mission de l'Église est de faire de toi un intime de Dieu. Quelqu'un me dit un bon Amen. Un bon Amen. 1 Timothée 2, verset 4. Dieu, on va le lire ensemble comme une grande famille. On va lire la deuxième partie. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et, dis avec moi, et. Si tu te souviens un peu de tes leçons de grammaire, c'était « Mais où est donc Ornica ?» Qui s'en souvient? C'est un cauchemar pour toi. Hein? « Mais où est donc Ornica ?» Autrement dit, conjonction de coordination. Ça veut dire que, quand il y a une conjonction de coordination, nous faisons des cours de français ce matin, conjonction de coordination, ça veut dire que ce qui vient avant et après est aussi important. Ce qui vient avant, ce qui vient après est aussi important. Donc, tu sois sauvé, bien, et c'est aussi important que tu parviennes à quoi? À la connaissance de la vérité. Autrement dit, que tu parviennes à connaître Jésus, autrement dit, que tu parviennes à devenir un intime du Seigneur. C'est aussi important. Je dirais même, en fait, c'est même plus important en réalité. Tu sais pourquoi c'est plus important? Parce que tu n'as pas été créé pour être sauvé. Oh, quelqu'un me dit un bon Amen. Tu n'as pas été créé pour être sauvé. Pourquoi? Le salut est la réponse de Dieu au péché de l'homme. Il n'y avait pas de salut. Pourquoi? L'homme n'avait pas encore péché. Le salut est uniquement intervenu parce que l'homme a fauté. Et a péché. Et là, Dieu a mis le salut pour répondre aux conséquences de la désobéissance d'Adam. Mais il n'y a pas besoin de salut au départ. Si Adam ne pêche pas, il n'y a pas de salut. Amen. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas te contenter d'être sauvé. Tiens, ton voisin, va plus loin. Va plus loin. Tu ne peux pas, tu ne dois pas te contenter d'être sauvé. Ah, moi, je suis sauvé. Tout va très bien. Je n'en ferai pas plus. Tu te trompes toi-même. Pourquoi? Tu n'as pas été créé pour être sauvé. Sauvé, gloire à Dieu, c'est la première étape. Mais tu dois aller plus loin. Dis encore avec moi, je dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Tu as été créé avec un mobile, l'amour, avec une fonction, le règne. Le règne. Voilà pourquoi tu as été créé. Avec un mobile, l'amour, parce que Dieu est amour. Mais la fonction, ce n'est pas le salut. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas t'arrêter au fait que moi je suis sauvé. Tant que je vais essayer de garder mon salut, jusqu'à, Paul a dit, travailler à votre salut, donc je travaille à mon salut. Non, je ne peux pas te limiter à ça. Tu dois y travailler, certes, mais tu dois aller bien plus loin que cela. Vous savez, autour de Jésus, est-ce qu'on peut m'afficher le graphique, s'il vous plaît? autour du Seigneur Jésus, le temps de son ministère terrestre, il y avait tout un ensemble de personnes qui gravitaient autour du Seigneur. Il y avait tout un ensemble de personnes qui tournaient autour de lui. Et ces personnes-là, on peut les réunir en quatre catégories. Première catégorie, c'est les gens de la foule. Dites avec moi la foule. La foule, voyez-vous, ce sont toutes les personnes qui suivent le Seigneur pour trouver une solution à leurs problèmes. La foule sont toutes les personnes qui sont après Dieu, qui viennent à Jésus-Christ parce qu'ils ont eu un problème. Et il répond au problème, quelqu'un me dit Amen. C'est la solution, Amen. Mais le problème, c'est que les personnes de la foule, ils s'émerveillent devant les miracles. Waouh, fantastique. Ce sont les mêmes, juste après, ils prennent les pierres pour lapider Jésus. Il est où? On va le lapider. La même foule qui l'acclame et la même foule qui veut le lapider. Quelques temps plus tard. Les gens de la foule, ils sont trop versatiles. Ce sont des personnes qui sont des gens qui sont venus au Seigneur parce qu'ils ont eu une difficulté, ils ont eu un problème et ils veulent trouver une solution. Parfois, ils la trouvent. Mais le problème, c'est que tu sais, quand tu restes à ce stade-là, ce sont les chrétiens, tu as quelqu'un qui vient que le dimanche. Je viens que le dimanche, la semaine, on ne le voit pas, on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il devient. Les cours sont, non, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai dit à mes cours à moi, ça me va très bien. Il ne fait aucun effort. C'est la foule. Il vient le dimanche. Là, quand même, il fait un effort, il vient le dimanche. Et c'est tout. C'est quelqu'un de la foule. Pas d'effort en semaine, pas de choses. Le problème, bien aimé, si tu restes là, tu vas tomber, tu vas basculer. Pourquoi? Les gens de la foule sont trop versatiles. Un coup, ils sont là, à la moindre difficulté, on se transforme et on veut lapider le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les mêmes personnes qui disent, ah, dès qu'il y a un problème dans l'église, oh, c'est bon, moi, je m'en vais. En fait, il y a seulement une occasion. La moindre occasion, oh, voilà, j'avais dit, je savais, moi ça, où j'en connaître. Je sais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je sais. Et là, moi, l'occasion, hop, il s'arrête. Tu sais, bien aimé, si tu es là, ne reste pas là, va plus loin. Va plus loin. Pourquoi? Parce que si tu restes là, la foule est près de la clôture du monde. C'est très facile de rebasculer dans le monde. Après, quand tu as quitté les rangs de la foule, tu arrives à un autre niveau, le stade des sympathisants. Voyez-vous, les sympathisants, c'est les personnes que Jésus allait, c'est qui Jésus allait manger, allait voir. Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. Quelqu'un me dit Amen. Il est venu vers les gens de mauvaise vie. Il est venu pour sauver les perdus. Amen. Donc, ce sont toutes les personnes. Et ces personnes-là étaient s'intéressées. Ils aimaient bien le Seigneur. Ils le trouvaient sympathique. Ils l'aimaient beaucoup. Ils l'invitaient chez eux. Ils partageaient avec lui. Ils aimaient écouter ses histoires. Ils aimaient entendre ses paraboles. Waouh, quelle sagesse, quelle grâce. Mais voyez-vous, les sympathisants sont ceux qui aiment bien le Seigneur. Ils viennent le dimanche. Ils peuvent venir en semaine aussi. Il vient de temps en temps, pas tout le temps accidentellement, il tombe quand même dans une réunion de prière. Il vient de temps en temps à ADG. Vraiment là, il est tombé en panne devant l'église. Donc... Mais c'est les sympathisants. Mais les sympathisants vont quand même au cours 101. Il aime bien les cours 101, les cours bibliques. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé. Il s'intéresse un peu à ce qu'aime le Seigneur. Mais voyez-vous, les sympathisants ne sont pas prêts à suivre le Seigneur. Parce qu'ils savent qu'une chose, c'est que suivre ce type-là, quand tu le suis, il est parfois surprenant et déroutant. En fait, les sympathisants comprennent que si on doit suivre le Seigneur, il faut renoncer à certaines choses. Il faut renoncer à soi-même, il faut renoncer à certaines choses, mettre sa vie en règle, en ordre, arrêter certaines choses, et on n'a pas envie de faire ça. Le sympathisant s'arrête, elle dit non, je veux bien venir au cours, m'intéresser un peu à la prière de temps en temps, mais mettre de l'ordre, non, je ne suis pas prêt à ça. Ça sont les sympathisants. Et quand vous avancez, et là, si tu es là, mon ami, ne reste pas là. Oh là là, s'il te plaît, ne reste pas là. Va plus loin. Dis à ton voisin encore, va plus loin. Va plus loin. Ne reste pas là. Tu dois encore aller plus loin. Après, tu atteins le stade de disciple. Un disciple, voyez-vous, c'est une personne qui a décidé de suivre l'enseignement d'une autre et de suivre son exemple. Le disciple, en fait, c'est quelqu'un qui s'est engagé vraiment avec le Seigneur. Il est sincèrement engagé avec le Seigneur. Il sert le Seigneur à l'église, dans son environnement, il obéit au commandement. C'est très bien, dites-moi, c'est très bien. C'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tu sais une chose, les gens, les disciples, ce qui les satisfait, c'est le service et c'est la connaissance qu'ils ont de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, tu peux servir Dieu, ou entre guillemets, Dieu se sert de toi sans le connaître. Oh oh. Tu peux servir Dieu, Dieu se sert de toi sans que tu le connaissent. Il a dit à certains, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons chassé, nous avons fait tout ça en ton nom. Il leur dit, je ne vous connais pas. Il a encore parlé d'intimité. Vous avez fait tout ça en mon nom, gloire à Dieu, vous avez prophétisé, très bien, vous avez guéri, très bien, mais moi et vous, on ne se connaît pas, éloignez-vous de moi. Donc en fait, le fait de servir Dieu n'indique pas que tu le connais. Dis-moi, toi, si quelqu'un parmi nous est employé, est-ce que tu manges tout le temps avec ton patron? Est-ce qu'il t'invite à manger chez lui le soir? Tu travailles pour lui, mais tu n'es pas intime avec lui. Donc tu peux servir Dieu, être utilisé par Dieu, et Dieu ne te connaît pas. Ça, c'est dramatique. Tu peux connaître les commandements, connaître la parole de Dieu, citer les versets, etc., et ne pas connaître Dieu. À l'exemple des Corinthiens, regardez les Corinthiens, ils avaient des révélations excellentes. Le mystère caché de la Sainte Seine, la nouvelle identité en Christ. Waouh, vous faites office d'ambassadeur pour Christ. Waouh, vous êtes une nouvelle création. Waouh, gloire à Dieu. La loi du semer de côté. On leur a expliqué tout ça. Et pourtant, les Corinthiens étaient le peuple le plus, l'église la plus pervertie qui soit. Ils avaient toutes les révélations. Connaître la parole, quand je dis connaître les versets, connaître le logos, tout ça, ne veut pas dire que tu connais Dieu. Est-ce qu'on me suit ce matin? Est-ce qu'on me suit ce matin? Ça veut dire que tu ne connais pas forcément Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas forcément d'intimité. Et puis j'ai une bonne nouvelle pour toi. Judas était un disciple. Judas était un disciple. Lui aussi, il est parti. Il a chassé des démons. Il a guéri des malades. Il a fait tout ça. Il est revenu avec les 70 en disant, Seigneur, on a vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Il a dit tout ça. Lui aussi était là. Et pourtant, il est rétrogradé. Il avait même fait pire. Il a trahi le Seigneur. Ça veut dire que, bien aimé, tant que tu restes au stade de disciple, tu peux toujours reculer et basculer. Dis à ton frère, va plus loin. Dis à ta soeur que toi, va plus loin. Ça veut dire que tant que tu restes au stade de disciple, tu peux toujours reculer. Tu sais, la clé, c'est d'arriver au niveau de l'intime. Et même au niveau des intimes, voyez-vous, il y a plusieurs niveaux d'intime. Il y a plusieurs niveaux d'intimité avec Dieu. Et en fait, la clé, c'est d'arriver à ce niveau-là. Au niveau des intimes, c'est là que Dieu se révèle à toi tel qu'il est. En fait, c'est là, comme dit le pasteur Samuel, c'est là que tu déballes Dieu. Qui a envie de déballer Dieu ce matin? C'est là que tu déballes Dieu. C'est là que Dieu s'expose à toi. Dieu se met à nu devant toi, c'est au niveau des intimes. Regardez, Jésus avait 70 disciples. Ils ont à faire toutes sortes de missions. Mais quand il s'agit d'aller sur la montagne de la transfiguration, quand c'est d'aller sur la montagne de la transfiguration et de me libérer et de me montrer tel que je suis réellement, ma dimension de fils de Dieu, il ne prend que 3 personnes. Pierre, Jacques et Jean, les intimes. Il prend que ces 3-là, il dit, vous venez avec moi. Parce que là, j'ai prévu de me montrer tel que je suis réellement. Bien aimé, ils ont été marqués à jamais. Ils sont devenus des faiseurs d'exploits. Pourquoi? Ils ont vu Dieu tel qu'il était réellement. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, si tu ne deviens pas un intime, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Tout est fait en sorte pour te faire reculer. Or, quand tu es là, tu vois tel que tu es, tu commences à dire comme Pierre, mais Seigneur, à qui irions-nous? Pourquoi Pierre dit ça? Pierre a vu. Il dit, non, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, toi seul as les paroles de la vie. Voyez-vous, c'est là que tu découvres une véritable facette, les véritables facettes de Dieu. C'est là que tu es marqué pour devenir un véritable faiseur d'exploits. Vous savez, pourquoi c'est la volonté de Dieu que nous devenons les intimes. C'est le but de l'Église, c'est la volonté de Dieu que tu deviennes un intime. Rappelle-toi, péché, ça vient du grec amatia, ça veut dire rater la cible. Donc, tant que tu n'as pas atteint la cible, en réalité, tu as péché. Tu peux faire beaucoup de choses, tu peux accomplir de grands exploits, tu peux faire de très belles choses. Mais si tu n'as pas atteint la cible, celle de l'intime, tu as péché, donc tu as fauté. Est-ce qu'on me suit ce matin? Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est important, si j'aspire à devenir un faiseur d'exploits, j'aspire à devenir un faiseur d'exploits, pourquoi il est important pour moi de devenir un intime de Dieu? Première réponse à cette question. En fait, c'est d'abord, c'est là, dans l'intimité, que tu reçois la feuille de route. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu reçois la feuille de route. Ça veut dire que tu vas recevoir les étapes les unes après les autres. Pourquoi? Rappelle-toi, pasteur Christian l'a dit, pasteur Yvon s'est l'a rappelé. Dieu ne te dit pas tout. On ne te dit pas tout. On vous cache quelque chose. On ne te dit jamais tout. On te montre jamais le plan en entier. Et c'est vrai que moi, parfois, je me dis, si on m'avait montré le plan, j'aurais réfléchi à 2, 3, ou même 4 fois avant de m'engager. Mais je me serais quand même engagé. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de faire la volonté de Dieu. Ah, il n'y a rien de plus merveilleux que cela. De faire ce que tu as été appelé à faire. Mais en fait, c'est dans le lieu, c'est là, dans l'intimité, dans le lieu secret, que tu reçois la feuille de route. Rappelle-toi une chose. Dites-moi, si deux époux, un époux et une épouse, sont dans la maison et veulent parler, quel est le lieu où ils sont même de parler sans être entendus, sans être dérangés? C'est là, c'est la chambre. Dieu est l'époux, Christ est l'époux et tu es l'épouse. Quand quelqu'un, un époux ne se manifeste, s'il veut dire des choses importantes, des choses secrètes, dans la chambre, dans le salon, il y a tout le monde. Dans le salon, il y a les invités qui sont venus, il y a même ceux qui sont venus à l'improviste. Ceux qui sont venus sonner à midi moins 5. Comme par hasard. Non, je passais par là et puis j'ai vu de la lumière. À midi moins 5, c'est éclairé, j'ai même pas mis la lumière, frère. En fait, tu avais quoi à manger ce midi? Si tu as fait ça, reprends-toi. Et viens à midi moins 5. Au salon, tu as tout le monde. À salle à manger, tu as même ceux que tu ne veux pas, tu ne veux même pas voir, ils sont là à manger avec toi. Il y a tout le monde. À la cuisine, il y a tous les piques assiettes, ceux qui mettent les mains, il y a tout le monde. Et les enfants qui courent partout, qui font du bruit. Quand tu veux parler à ton conjoint, à ton épouse, tu veux dire des choses intimes, des choses profondes, des choses secrètes, tu dis quoi? Viens avec moi, on va dans la chambre. On va dans la chambre, autrement dit dans le lieu secret, dans le lieu de l'intimité. Et c'est là que l'époux se révèle à son épouse. Il ne se révèle pas n'importe où. C'est là qu'il peut dire des choses que personne d'autre entende. Et là, il va te faire entendre les battements. C'est là qu'il dit, voilà ce qui bouge dans mon cœur. Voilà ce qui vous donne dans mon cœur. Parce que rappelle-toi, tu peux être un exploit, c'est un acte marquant, retentissant. Mais tu peux faire des exploits pour ton propre compte. Tu le sais ça? Tu peux faire des exploits pour ton propre compte. Tu peux monter une entreprise, tu peux sauver une famille, tu peux faire plein de choses, tu peux faire des associations, tu peux faire monter ton église, tu peux faire tout ça. Mais si ce n'est pas les bonnes œuvres prévues d'avance, Dieu dit zéro. Le monde dit un, bravo, Dieu dit zéro. Le monde dit deux, Dieu dit... Le monde dit 3, Dieu dit 0. Parce que ce n'est pas les bonnes œuvres que j'ai prévues d'avance. Mais comment tu trouves les bonnes œuvres? Dans l'intimité. C'est là qu'il te dit, voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Oh, quelqu'un voit de quoi je parle? Quelqu'un voit de quoi je parle? C'est là qu'il te dit, ah, voilà ce qu'il y a dans mon cœur. C'est là qu'il te dit, ah, il y a telle chose qui boue en moi. Voilà ce qui m'attriste. Voilà ce qui me rend joyeux. Voilà ce qui m'exalte dans la vie. Comment dire en Côte d'Ivoire, qui m'enjaille. Qui me rend waouh, qui me fait faire waouh, c'est là. Mais où il dit ça? Dans le lieu secret, dans la chambre, là où il y a les intimes. Oh, va dire ton voisin, va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Bien-aimé, en fait, si tu ne vas pas là, si tu n'es pas là, tu vas toujours dépendre des autres et des prophéties des autres. En fait, tu n'as pas une parole pour moi aujourd'hui? Tu vas courir après les gens. Tu vas courir. Mais je suis passé par là, je sais de quoi je te parle. J'avais des frères avec qui j'aimais beaucoup prier. Parce que dès qu'on priait avec eux, moi je priais, je ne voyais rien. Ah, j'ai vu un ange ici, j'ai vu ça, j'ai dit, toi tu es là, tu ne vois rien. Même pas un vent. Même pas une petite brise pour dire, ah, Dieu est là. Tu ne vois rien. Tu dis non, voilà, j'ai vu, il y avait tel, tel, tel. Et comment ça va prier avec ces gens-là? En fait, je n'ai pas venu à prier avec moi, là, j'ai un sujet. En fait, je ne t'ai rien dit pour moi. En fait, quand tu fais ça, tu deviens dépendant des gens. Or, tu dois être dépendant de Dieu uniquement. Tu dois dépendre uniquement de Dieu. C'est tout. Uniquement de Dieu. Pas d'un homme, pas d'un prophète. En fait, le prophète, le pasteur, il est là pour t'aider, mais tu dépends que de Dieu. Et la prophétie que tu reçois vient confirmer quelque chose que tu as reçu à l'intérieur de toi. Si tu n'as pas reçu à l'intérieur de toi, la prophétie vient confirmer quelque chose que tu as reçu à l'intérieur de toi. Mais comment tu vas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi si tu n'es pas dans le lieu de la chambre, là où l'époux et l'épouse sont dans le lieu secret, dans le lieu de l'intimité? Comment tu vas recevoir ça? Est-ce qu'il y a des intimes de Dieu dans ce lieu? Est-ce que je parle à des intimes ce matin? Dis à ton voisin, va, allons plus loin. Allons plus loin. Bien-aimé, ne te limite pas au stade de la foule. Je t'en prie, avance. Quand tu sois devenu un sympathisant, ne te laisse pas, ne t'arrête pas là, avance encore. Quand tu seras un disciple, c'est très bien. Et va plus loin. Va plus loin. Deviens un intime. C'est là que tu vas recevoir étape après étape. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est peut-être très bien. Tu n'as même pas idée de ce que Dieu est en train de t'attendre demain avec le Seigneur. Tu n'as même pas idée. Tu es très content de ce que tu fais aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais tu ne sais pas que demain, c'est encore plus glorieux. N'oublie pas, on va de gloire en gloire avec le Seigneur. Mais comment je sais? Pour pas que je m'arrête à la mauvaise étape, comment je fais? L'intimité. Là où Dieu se révèle, il dit voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà ce qui boue en moi. Voilà ce qui me fait pleurer. Voilà ce qui me rend heureux. Voilà ce qui me rend heureux. C'est ça. Il te dit où? L'époux le dit à l'épouse dans le secret, dans la chambre. Deuxième raison pour laquelle je dois connaître Dieu. Je dois connaître Dieu, être un intime, Dieu peut être un faiseur d'exploits. Se connaître Dieu, être un intime, te fera connaître les différentes facettes de Dieu. Et tu as besoin de connaître Dieu tel qu'il est. Pourquoi? Ça t'amène à reconsidérer ce que tu traverses, ce que tu vis. Tu sais, il y a des choses que tu appelles géants, les autres te disent que ce n'est pas des géants. Regardez les 12 espions qui ont été envoyés pour espionner Canaan. 10 reviennent et disent, oh, le pays est plein de géants. 2 disent, le pays est prenable. Qu'est-ce qui s'est passé? Différence de perspective. Regardez Élisée. Il est avec son serviteur sur la montagne, entouré de Syriens. Le serviteur a peur. Il dit, maître, ils sont partout. On va se faire avoir. On va se faire avoir. Il est paniqué. Élisée est calme et détendu. Il dit, maître, ils nous environnent de partout. Qu'allons-nous faire? Élisée dit, Seigneur, ouvrez les yeux. Là, lequel ouvre les yeux, il voit des myriades d'anges. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, maître, attends-moi, j'arrive. Il a pris sa chaise. Il a mis sa chaise à côté du maître. Il a fait ça. J'attends le spectacle. Pourquoi? Ses perspectives ont complètement changé. Il a vu que ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ils sont bien plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Perspective. Ils ont vu une autre dimension de Dieu. Tu vois, donc ce que toi tu appelles, tu dis, oh, problème, quelqu'un dit opportunité, waouh, gloire à Dieu. Toi tu dis, ah, blocage, quelqu'un dit, oh, percé. Toi tu dis, ah, opposition, quelqu'un dit, entends, permission. Au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Différence de perspective. Pourquoi? Quelqu'un a vu les différentes facettes de Dieu. Vois-tu, on est transformé de la même image, de gloire en gloire. En fait, quelqu'un a vu Dieu, il a dit, ah, gloire. J'ai tourné la vie. Oh, gloire. Là, regardez encore. Oh, gloire. Là encore. Oh, gloire. Là encore. Oh, gloire. Mais de quoi aurais-je peur? Mais de quoi aurais-je crainte? Mais franchement, de quoi aurais-je crainte? Et si tu veux être un faiseur d'exploits, tu as besoin de voir toutes les facettes de Dieu pour avoir la bonne perspective. Et dire permission. Non, quelqu'un te dit opposition, te dit permission de passer au nom de Jésus. Voilà. Pourquoi? Et ça, tu le vois où? Dans l'intimité. C'est là que tu découvres l'époux tel qu'il est réellement. Oh, quelqu'un me suit ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Bien-aimé. Quelqu'un qui est un intime, on annonce tant de licenciements dans mon entreprise. Celui qui n'est pas encore un intime va dire, oh Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aïe, aïe, aïe. Et l'intime dit, waouh. Soit deux choses. Soit, on va enlever tout, on va me garder, parce qu'ils ont besoin de moi pour la grâce de Dieu sur cette entreprise. Soit, c'est super, je vais partir avec un grand pactole, formation gratuite, tout gratuit, et ça va m'emmener vers ma nouvelle direction dans ma destinée en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Pourquoi? Différence de... Parce que celui qui est intime sait que jamais je n'ai vu... En fait, ce n'est pas qu'il sait, mais c'est qu'il vit jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel et sa postérité mondier sans pain. Il ne le dit pas, il le vit. Il le sait et il a vu que jamais il n'abandonne le juste. Et donc lui, quand on te dit, oh, tant de licenciements, il dit, ouf, formidable. Moi, j'ai prié pour ça, il ne m'a pas licencié. J'ai dû faire une rupture à l'amiable. Je disais, mais laisse-moi, mais virez-moi, mais, s'il vous plaît. Ils n'ont pas voulu. Licenciement à l'amiable. Mais comprends une chose. Tu sais, tout est une question de perspective. Et cette perspective que tu as est fonction de ce que tu as vu de Dieu. Pourquoi, troisièmement, pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important pour moi de devenir un intime de Dieu? Si je veux devenir un faiseur d'exploits. En fait, bien aimé, c'est là, dans l'intimité, que tu développes l'attachement au cœur de Dieu. L'attachement au cœur de Dieu. C'est là que tu apprends à faire les choses par motif de conscience envers Dieu. En fait, tu sais, as-tu déjà remarqué, il y a certains couples, quand ils sont bien entre eux, et ils sont ensemble depuis un certain temps, c'est comme s'ils devenaient fusionnels. Parce que tu avais affaire à des frères jumeaux. Ils demandent s'ils ne sont pas frères et sœurs. Qui voit de quoi je parle? Il y a certains couples, ils ont tellement marché ensemble, c'est comme s'ils se devenaient des frères jumeaux. Ils ont les mêmes mimiques, les mêmes intonations, les mêmes expressions. Quand tu vois, tu dis, mais c'est ton frère. Non, c'est mon mari. C'est quoi ça? Tu veux le toucher? Attention à toi. Hein? Mais c'est pourquoi? Ils ont tellement... Qui voit de quoi je parle? Ils ont tellement cheminé ensemble qu'en fait, ils ont développé les mêmes traits de caractère, les mêmes manières de parler, de faire, de dire, les mêmes expressions, les mêmes mimiques. En fait, ils sont devenus... Et c'est ce qui se passe dans la chambre haute. En fait, c'est comme si Dieu se gravait son image de plus en plus sur toi. Nous tous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est comme si il s'imprimait en toi. Et tel il est, tel tu es déjà, mais tel tu manifestes en fait. Tel tu manifestes en fait. Ben aimé, pourquoi tu as besoin de ça? Tu ne tiendras pas sinon. Si tu n'es pas un intime, tu ne tiendras pas. En fait, la pression se fait de plus en plus forte. En fait, tes cinq sens, tout est fait pour que tu perdes ta foi. Oh, qui voit de quoi je parle? Tu allumes la télé, dès 18h, tu vois des images bizarres. Dis, oh, mais ça, c'est mais 18h, c'est quoi ça? 17h30 même. Mais c'est, qu'est-ce qui se passe? Tes cinq sens sont bombardés en permanence. Tout est fait pour remettre ta foi en cause. Vous savez, moi, je suis dans un endroit formidable, une très belle île, mais je suis peut-être allé 5 fois à la plage en plus de 2 ans. Vous savez pourquoi? C'est trop compliqué. Je connaissais les une pièce, je connaissais les 2 pièces, mais celle-là, je ne connaissais pas. Tu oublies de marcher comme ça. Excusez-moi. Pardon? Oups, excusez-moi. Ah, il y a l'eau? Non, c'est un rocher. Ok, l'eau est là. Ok, ouf. Père, moi, c'est compliqué. Parfois, j'aime de marcher avec des tissus. Ma soeur, il te manque un bout de tissu. Tiens. Mais il manque l'intermédiaire, non? Il manque pas quelque chose. C'est partout pareil. Mais pourquoi? En fait, tout est fait en sorte pour te bombarder, remettre en cause ta foi. Oh, tu vois de quoi je parle. Il y a des... Dès que tu veux commencer à avancer, on vient t'intimider. Dès que tu commences à avancer... Vous savez, je vais raconter une histoire. C'est passé l'année dernière. J'étais au bureau à l'église. Et quelqu'un vient me dire, parce que quelqu'un qui est arrivé, j'ai pas de rendez-vous. Quelqu'un vient arriver, il veut te parler. Je dis, ok. Donc je sors pour l'accueillir au bureau. Je dis, bonjour. Je fais comme ça. J'ai un message de la part du Seigneur. Bonjour. J'ai un message de la part du Seigneur. Ok. Rentrez. Alors comment vous appelez? J'ai un message de la part du Seigneur. Authentique. Il s'est assis comme ça. Dieu m'a dit de te parler. Tu es sur la mauvaise voie. Repends-toi. Je vais te frapper sinon. Et après, je voulais dire un mot, il dit, j'ai fini. Authentique. Non, mais en fait, il faut vivre pour voir des choses comme ça. Mais sur le coup, j'avoue, il m'a intimidé. Je suis quand même remis en question. Je dis, ah, Seigneur, peut-être que mon cœur là. Hey. Mais l'espace d'un instant, j'avoue, non, je peux dire la vérité ou pas? Je peux dire la vérité? J'avoue quand même pendant un quart d'heure, j'étais quand même comme ça pendant un quart d'heure. J'étais, cette histoire là. Et puis je me dis, mais c'est. J'ai commencé à faire ça. Mais à bout d'un moment, je me suis dit non. Je connais mon Dieu. Dieu n'accuse pas les gens. Dieu convainc que tu fais fausse route et il te fait tout pour te relever, te ramener. Il ne condamne pas les gens. Je dis ça, c'est pas mon Dieu, ça. Ça, c'est pas le Dieu que je connais. C'est pas lui. Je dis c'est pas lui. D'ailleurs, je ne l'ai plus jamais revu après celui-là. S'il revient, moi, je serai là. J'ai un message pour toi. Deviens intime. Je lui dirais ça. Mais bien-aimé, tout est fait pour t'intimider. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas dire, ah Seigneur, j'ai péché. Aïe, bah. Je dis, non, ce n'est pas Dieu. Mais tout est fait dès que tu commences à avancer. Oh, et oh, tu te prends pour qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? On t'a invité? Par où t'es passé? Mais tout est fait. En fait, tout est fait pour te faire craquer. Les fausses accusations. On a marché ensemble, on était bien ensemble. Soudainement, tu apprends qu'il parle sur toi, qu'il t'a trahi dans le dos. Quoi, c'est toujours dans le dos la trahison, là, entre guillemets. Bon, il t'a trahi. Oh, qui voit de quoi je parle. Vous avez cheminé ensemble, sans problème. Main dans la main. Et tu apprends que c'est lui qui dit tout un tas de choses sur toi. Mais ça fait mal, ça. Oui ou non? Et tu as envie de laisser. En fait, tout est fait en sorte pour te faire lâcher prise. Les fausses accusations. les trahisons, les tentations en tout genre, les propositions compromettantes. Ah, tu veux tel marché, mais il n'y a pas de problème, inscris-toi chez nous. Tu veux telle opportunité, il n'y a pas de souci, rejoins notre organisation, c'est parfait pour toi. Je prépare un plan de carrière pour toi en 5 ans, béton, t'inquiète pas. Pourquoi? Tout est fait en sorte pour remettre en cause ta foi, pour te faire craquer. Même Jésus l'a dit dans Luc 18, au verset 8. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Étant conscient qu'il y aura trop de pression, trop de pression. Mais si tu n'es pas un intime, bien aimé, tu ne tiendras pas. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Si tu n'es pas intime, tu ne tiendras pas. Judas n'était pas intime, il n'a pas tenu. Si tu n'es pas un intime, quelqu'un qui cultive, qui a cultivé cet attachement au cœur de Dieu, tu ne tiendras pas. Il y aura tellement de pression. Dis à ton voisin, allons plus loin. Allons plus loin. Dis-lui, allons plus loin. Dis à l'autre, c'est là fatigué. Dis à l'autre, allons plus loin. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois faire tous tes efforts pour devenir un intime de Dieu. Bien-aimé, pour devenir un intime, il y a un parcours à faire. Il y a un parcours. Quand tu sors du monde, tu retombes dans la foule. Tu dois quitter les rangs de la foule, les sympathisants, les disciples et devenir un intime. Tu as des étapes à passer, tu as des tests à passer, tu as des défis à relever, tu as des exigences à remplir. Parce que vois-tu, ton époux est un époux exigeant. Il ne se révèle pas n'importe comment. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Ton époux est exigeant et ne se révèle pas n'importe comment. Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut être un intime ce matin? Y a-t-il un intime dans ce lieu ce matin? Ton époux est exigeant. Il est très exigeant. Il ne se révèle pas n'importe comment. Et donc, tu dois y mettre tout ton cœur. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Jérémie 29, 13 nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Deutéronome 4, verset 29. C'est là que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu dois mettre tout ton cœur, toute ton âme, tous tes efforts soient mis pour chercher à devenir un intime. Et voyez-vous, en fait, ce matin, je veux partager avec vous un élément. Je sais que je parle aux bonnes personnes. Un élément pour devenir un intime de Dieu. Pour devenir une personne à qui Dieu se révèle. Un élément. Il y en a plusieurs. J'en partagerai un ce matin. J'appelle ça la soif. Dis comment la soif. La soif. Quand je parle de soif, je parle de détermination. Je parle de zèle. Je parle de l'ardeur que tu mets à faire les choses pour rencontrer le Seigneur. Et tous ceux qui sont dans le cercle des intimes, tous les intimes qui font l'expérience avec Dieu ont eu et ont soif de Dieu. Regardez David. David, dans le psaume 42, verset 1 à 2. Il dit, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi, a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif de Dieu. Il le redit encore au psaume 63, verset 1 à 2. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, c'est un merveilleux chant. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. J'ai soif de toi. En fait, il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Mon âme a soif de toi. Les faiseurs d'exploits, ils ont senti qu'il y avait soif. Pourquoi la soif te rend déterminé, fait de toi un bulldozer qui tracte des choses sur la route, tellement tu aspires à devenir un intime de Dieu. Tant qu'il a soif, tant qu'il n'a pas eu la soif, être assagi, il ne s'arrête pas. Il continue à chercher, il continue à avancer, il continue à progresser. Oh, quelqu'un veut-il avoir soif de Dieu ce matin? Il continue à avancer, il continue à progresser, il ne s'arrête pas, rien ne peut le limiter. Mon âme a soif de toi. Qui connaît William Seymour parmi nous? William Seymour, Azusa Street. Ça vous parle, Azusa Street? C'est la naissance du mouvement pentecôtiste. William Seymour était un homme qui a vécu dans l'ouest des États-Unis. Ça s'est passé en 1906, je crois. Il avait tellement soif de voir plus de Dieu. Il avait tellement soif de voir une autre dimension, une autre manifestation de Dieu. Ce qu'il a fait, il allait s'enfermer. Chez lui, pendant des semaines, pendant des mois, il priait. Il cherchait Dieu. Satan l'a rejoint plus tard. Bien aimé, au bout d'un moment, il y a eu une telle effusion du Saint-Esprit. C'était tellement fort que quand les gens arrivaient à la réunion de prière, Il n'y a pas besoin de prêcher, non, tout ça. Les gens se convertissaient tout de suite. Tu rentres, il y avait une telle présence de Dieu. Les gens tombaient face contre terre et pleuraient. Je me reprends, je donne ma vie au Seigneur. C'était tellement fort. Parfois, je rêve, je dis, Seigneur, si je pouvais arriver à l'église le matin. Je rentre comme ça, tout le monde tombe à terre, tout le monde pleure, tout le monde se repart, on repart, allez-y, on y va. Tellement, je dis, mais ça serait formidable. Mais, c'est possible. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais c'est. Mais il y a un prix à payer. Bien aimé, tu peux tout acheter. C'est pas seulement payer le prix qui va avec. C'est tout. Et il y a un prix à payer. Mais je te dis, c'était tellement glorieux. En fait, c'est ce qui a donné la naissance au mouvement pentecôtiste. Malheureusement, les successeurs n'ont pas su perpréter l'œuvre de William Seymour. Mais c'était tellement fort. Les gens arrivaient en larmes. Ils se convertissaient sans même faire. Des fois, je rêve. Parce que parfois, tu parles aux gens, du Seigneur, vraiment. Mais je vais chercher Dieu car j'ai soif de lui. Oh, est-ce que quelqu'un a soif de Dieu comme moi? Amen. Voyez-vous, on m'a donné une autre histoire. On m'a raconté l'histoire d'un évangéliste aussi. Je suis plus sûr de son nom, donc je ne vais pas le dire pour ne pas dire de bêtises. C'est un évangéliste américain du début du XXe siècle. Et voyez-vous, lui, il vivait dans une zone montagneuse avec des forêts. Et il a assisté à une réunion de prière, à une réunion d'évangélisation, pardon. Et on lui a donné la parole. Et il s'est converti, s'est donné au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Et il commence à... Et donc il a commencé à cheminer, mais il avait une chose, il avait un handicap, il ne savait pas lire. Il n'avait pas été à l'école, il ne savait pas lire. C'est ce qu'il a fait. Il a pris sa Bible, il a dit, maman, j'arrive. Et il est dans la forêt. Pendant plusieurs jours, on ne le voyait pas. Sans rien, que sa Bible, il est dans la forêt. Il s'est enfermé dans la forêt, bien aimé. Au bout d'une semaine, je crois, il est sorti, il lisait la Bible. Jean 1, au commencement était la parole. La parole était... Et la parole, comment il a fait pour lire? Bien-aimé, là-bas, il disait, Seigneur, écoute, je veux te connaître. Comment vais-je te connaître si je ne connais pas ta parole? Comment vais-je connaître ta parole si je ne sais pas lire? Seigneur, tu dois m'apprendre à lire. Apprends-moi à lire. Bien-aimé, Dieu lui a appris à lire dans la forêt. Qu'est-ce qui a fait ça? La soif. Tout comme à Azusa Street, qu'est-ce qui s'est passé? Et la soif d'un seul homme a changé toute une région. Qu'est-ce qu'il avait? Uniquement une... Tu vois ce que la soif de Dieu peut faire? Bien-aimé, où est-ce que tu as mis ta soif? Où as-tu mis ta soif? Ce matin, je vais la réveiller au nom de Jésus. Elle va être réveillée au nom de Jésus-Christ. À quoi tu reconnais quelqu'un qui a soif de Dieu? À quoi tu reconnais quelqu'un qui a soif de Dieu? Il consacre un temps et des moyens considérables à chercher à connaître Dieu. Sur Internet, les lectures, les messages audio, tout ça. Il a consacré un temps et des moyens importants à chercher Dieu. Quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui passe des temps, ce temps de prière et de jeûne, c'est des temps de jeûne et de prière de consécration. Ou 80% de la prière, c'est seulement, il n'y a pas de... La prière, c'est seulement... Mon âme a soif de toi. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchis mon être de toi. Seigneur, viens diriger mon âme, viens diriger mon cœur, viens diriger mon être entier. Oh, viens posséder, Seigneur, possède mon âme, viens posséder, possède-moi entièrement, viens posséder mon être entier. Seigneur, c'est toi que je veux, rien d'autre que toi et toi seul. Viens posséder. Seigneur, possède-moi de la tête aux pieds. Je voudrais vivre pour toi, exister, marcher pour toi, respirer pour toi. Aide-moi à te connaître, fais-moi te connaître. Je t'en supplie, j'ai soif de toi. Fais-moi te connaître. C'est la prière d'un assoiffé. Il prie comme ça. 80% de la prière, Seigneur, donne-moi toi. À quand remonte ta dernière retraite pour chercher Dieu? Pas pour aller prier pour un besoin. Ou tu es allé en retraite simplement pour dire, Seigneur, j'ai pas de sujet. En fait, si j'ai un sujet, c'est toi le sujet. C'est mon toi que je veux. À quand ça remonte ta dernière retraite? À quand remonte la dernière fois? Je ne parle pas du jeûne de l'église où tu as pris un temps de jeûne et tu restes à la maison pour dire uniquement mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après. Et tu enchaînes. En fait, c'est pas que tu enchaînes les chants. En fait, les chants expriment ça de ton cœur. Après, tu vas commencer à chanter. Mon âme soupira après toi. En fait, c'est l'état de ton âme. À quand est-ce que ça remonte la dernière fois que tu as fait ça? À quand remonte la dernière fois où tu as dit ma femme, mon mari, mes enfants, excusez-moi, mais comme tu es responsable, tu les confies à quelqu'un, tu es responsable, dis-moi amen. Tu confies à quelqu'un, tu dis je vais à l'hôtel. Et tu vas payer l'hôtel pour juste te cacher dans la présence de Dieu. Et juste chercher Dieu. Est-ce que je parle à un assoiffé ce matin? Est-ce qu'il y a un assoiffé parmi nous ce matin? Qui veut devenir un assoiffé du Seigneur? Bien-aimé, sans la soif, tu n'auras pas un intime. À quand ça remonte? Mais maman, examine tes prières. De quoi sont composées tes prières? De quoi sont composées tes prières? Examine-la et tu verras si tu es encore assoiffé ou pas. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un qui a soif, tu le reconnais au fait qu'il examine sa vie en permanence. Pas pour ne pas être frappé. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas pêcher pour ne pas être frappé. Ça existe aussi. Certains ne pêchent pas pour ne pas être frappés ou pour obtenir une grâce de la part de Dieu. Mais les assoiffés ont un passage en tête, Ésaïe 59, verset 1 à 2. Et la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. En fait, ils se sont intéressés à ça. Ils disent, non, peut-être que tu viens vers Dieu, ils s'examinent pour dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne te plaît pas? Le but de ça, c'est de savoir si entre toi et moi, c'est bon, il n'y a pas de séparation. S'il n'y a pas de séparation, ok, merci Seigneur, ça va bien. Ça, c'est un assoiffé. Parce qu'il s'examine, il veille sur sa vie, il travaille sur son âme, il travaille sur son caractère, sur tout ça, pour une seule raison. Garder l'intimité. Garder l'intimité. C'est uniquement son motif. Ah, Dieu va donner de la soif à quelqu'un ce matin. Dieu redonne la soif à quelqu'un ce matin. Quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui a soif, il n'est jamais satisfait de sa situation avec Dieu. Et quand tu demandes comment va ta foi, oh, je peux mieux faire. Oh, qui voit de quoi je parle. Oh, en fait, c'est quelqu'un qui aime les peut mieux faire. Tu n'aimais pas ça à l'école, les peut mieux faire, je sais. Tu n'aimais pas ça sur le bulletin scolaire. Alors, élève A, peut mieux faire. Mathématiques, peut mieux faire. Français, peut mieux faire. Physique, peut mieux faire. Avec Dieu, le peut mieux faire, c'est très bon. Quand ton bulletin, Dieu voit ton bulletin qui dit peut mieux faire, c'est très bien. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu peux aller encore plus loin avec le Seigneur. Tu peux aller encore plus loin avec... Alléluia. Oh, je vois des assoiffés ce matin. Je vois des assoiffés ce matin. Ah, merci Seigneur. Vous voyez, rien qui est assoiffé, tu le vois au zèle qui n'est pas pour le Seigneur. Quand je parle de zèle, je parle, tu sais, le zèle, c'est l'ardeur, c'est l'empressement que tu mets pour les choses du Seigneur. Je ne parle pas du zèle sans intelligence. Zèle sans intelligence, c'est un zèle sans discernement, sans sagesse, où tu parles mal et tu fais du mal aux gens. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus du zèle amer. Parce que voyez-vous, le zèle amer est un zèle teinté d'amertume. En fait, le zèle amer, quelqu'un qui est zélé de manière amère, en fait, son zèle a un but, c'est combler une blessure. Ou bien, ce qu'il veut, il veut prouver à lui-même ou aux autres qu'il est capable. Vous allez voir. Maintenant, c'est moi le chef. Responsable de département, vous allez voir aujourd'hui. C'est pas toi qui m'as négligé là. Attends d'abord. Attends. Vous allez voir. Mais quelqu'un, ça c'est le zèle amer. Bien-aimé, tu n'as rien à prouver. Laisse-moi te dire une chose. La vérité, c'est que nous ne sommes capables de rien. C'est Christ en nous qui est capable. C'est Christ en nous qui nous rend capables. Et quand tu comprends ça, tu es tranquille, mon ami. Dans tout ce que tu fais, tu cherches l'intimité. Parce que tu sais que c'est là que tu reçois la capacité. C'est là qu'elle est révélée. C'est là. Qu'elle est révélée. Et donc, le zèle amer te fait faire des choses pour montrer quelque chose. Tu n'as rien à montrer, tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à montrer. Quelqu'un me dit un bon amen. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Tu n'as rien à montrer à personne. Quelqu'un qui est zélé, Tu sais, parfois, il a une attitude déroutante. Il fait des choses, tu te dis, mais c'est quoi son problème à lui, là, ou à elle? Parce que les gens qui sont zélés font parfois des choses qui sont déconcertantes, déroutantes. Ils vont faire des trucs, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Il a soif de Dieu. Pourquoi tu vas dans la forêt? J'ai soif de lui. Pourquoi tu t'enfermes? J'ai soif de lui. Mais on ne te voit pas. Ah, j'ai soif de lui. Ils font parfois des choses déconcertantes. Comme, je vois que ton voisin a du mal à comprendre quelqu'un qui a soifé. Rappelle-toi tes débuts avec le Seigneur, si tu es réellement converti. Oh oh. Si tu as connu la réelle conversion, tu as forcément connu cette période où tu cherchais Dieu partout. Tu lisais ta Bible tous les jours. Tu voulais même expliquer des versets à des gens. Tu viens de te convertir, tu penses, pasteur, je vais t'expliquer le verset du frère, calme-toi. Rappelle-toi de cette période-là, où tu étais tout le temps à l'église, toutes les réunions. Même quand on n'a même pas invité, tu es là. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis à la réunion. Ah, voilà. Tu étais tout le temps là. L'église est fermée, tu es devant l'église. Pourquoi? Tu as soif de Dieu. C'était cette période-là où tu écrivais des messages tout le temps. Tu postais tes révélations douteuses sur Internet pour montrer que tellement tu cherchais. Oh, qui voit de quoi je parle? C'est le temps où tu harcelais ton pasteur. Pasteur, ça veut dire quoi? Toi, dès que le pasteur te voyait venir, faire comme ça. Pasteur, oh là 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 là, Kumayandere Bosakaya Machetere Botoshuki. Oui. Parce qu'il allait te bombarder de questions. Explique-moi ça. Et Jean 1, et ceci, et cela, explique-moi. Et puis dès que tu as pas. Je m'as permis de répondre, pose-toi une autre question. Mais attends que je réponde d'abord à ça, attends un peu. Oh, qui se rappelle cette période-là? Où tu étais? Les gens te fuyaient. Mais en fait, moi, j'aime ces gens-là. Pourquoi? En fait, il m'aide à entretenir ma soif avec eux. Parce que je vois ce truc-là. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. C'est cette période-là où tu jeûnais pour Dieu seulement. Mais tu n'étais pas censé perdre cette soif. Tu n'étais pas censé la perdre, comme me dit un mot, amen. Tu n'étais pas censé perdre cette soif-là. Cette soif était censée aller en grandissant au fur et à mesure que tu croissais spirituellement. Tu n'étais pas censé perdre ta soif. Elle est censée grandir au fur et à mesure que tu grandis. Bien-aimé, Dieu répond à la soif. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Dieu répond à la soif. En fait, Dieu te rencontre au niveau de ta soif. Comment vous expliquer? Aujourd'hui, deux personnes se donnent au Seigneur. Quelques temps plus tard, il y en a un qui est plus avancé que l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est uniquement la grâce de Dieu? Non, c'est la soif qui fait la différence. C'est la soif. En fait, tu dis, mais lui, comment il a avancé? Mais comment elle a fait pour avancer si vite, celle-là? Elle avait soif, un ami, tout simplement. Lui, comment il a fait pour aller si loin? Il avait soif. Laisse-moi te dire une chose. Ce qui est bien que la soif est un accélérateur. Tu peux arriver aujourd'hui et être déjà plus loin que certains qui ont 10 ans de conversion. Pourquoi? Ce n'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de soif. Parce que la soif te fait gagner du temps. Mais comment? Mais vous êtes déjà... Vous êtes pasteur, vous m'avez l'air bien jeune pour être un pasteur. Moi, je suis un bien pasteur, jeune, fringant, bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas... D'ailleurs, pasteur, ça ne veut rien dire entre nous. C'est qu'un titre dans l'église. Quelqu'un me dit à moi-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la soif. C'est uniquement la soif. Dis à ton voisin, sois assoiffé. Sois assoiffé. C'est uniquement la soif. Qu'est-ce qui fait? Mais c'est la soif qui donne la force de passer les rangs. Les rangs de la foule, les rangs des sympathisants, les rangs des disciples pour devenir et intégrer le rang des intimes. Parce qu'à chaque fois, il y aura de l'opposition. Comment tu fais pour traverser? C'est ta soif. Et l'ennemi l'a tellement compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour neutraliser ta soif, pour tuer ta soif. Il fait tout pour ça. Je vais vous parler de six choses qui neutralisent la soif. Parce que, bien aimé, tu n'étais pas censé perdre ta soif. Il y a six choses qui neutralisent la soif. Premier élément qui neutralise la soif, c'est la religion. Ou encore une attitude religieuse. La religion ou une attitude religieuse. Est-ce que tu sais que tu peux être pentecôtisant, prier en langue, chasser des démons, être religieux? Quelqu'un le sait ça? On peut être pentecôtisant, prier en langue, c'est des démons et être religieux. Pourquoi? La religion vient d'un mot latin religare qui veut dire relier. La religion, c'est quand l'homme essaie d'atteindre Dieu avec ses propres moyens. Or, le royaume, c'est Dieu qui vient vers l'homme. La religion, c'est ça. Et dès l'instant où tu commences, vous savez, beaucoup de gens, après avoir vécu une expérience forte avec Dieu, décide d'établir, de faire de ce moment-là maintenant un monument. Dieu a fait un mouvement, ils ont fait un monument, ils ont dressé un autel. Pourquoi Dieu m'a visité de cette manière-là? Dorénavant, je vais toujours approcher Dieu comme ça. Je vais toujours prier à 2h36, pas 35, 36. Je vais commencer par le psaume 23, le psaume 51, ensuite le psaume 91, après le psaume 320. Qui a dit Amen? Ton voisin ne dit rien, il n'a pas compris. Dis-lui seulement lis ta Bible. Dis-lui seulement lis ta Bible. Il n'y a pas de psaume 320 aussi, oh vraiment. Et quand tu décides de dire, non, non, je vais seulement faire que ça, tu deviens religieux. Pourquoi? Tu deviens répétitif. Tu deviens religieux. Tu peux avoir des coutumes. Les coutumes, c'est très bien. Tu as des ordres, tu es discipliné, c'est très bien. Mais dès que tu deviens, tu fais toujours la même chose. Tu décides de t'approcher de Dieu toujours à la même manière, tu tombes dans la religion. Certaines églises également, après avoir une puissante visitation, essaient de fonctionner d'une certaine manière, mais ils tombent dans la religion. Pourquoi? Dieu ne sait pas d'où il vient et où il va. La vérité est dans Acte 17. Acte 17, verset 27 nous dit la chose suivante. Il a voulu qui, Dieu, que qu'ils, les hommes, cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais il faut qu'ils s'efforçassent de le chercher en tâtonnant. Ce n'est pas le mot que je dis, ne te trompe pas. Qu'ils le cherchassent en tâtonnant. Autrement dit, quand tu vas chercher Dieu, tu vas tâtonner. Tu vas te cogner là. Oh, tu vas peut-être tomber parfois, toi te relever, mais il faut que tu tâtonnes, et c'est obligatoire. Quelqu'un qui n'a pas soif, au premier obstacle, il dit, oh, c'est bon, moi, c'est bon, je reste chez moi, tranquille. Quelqu'un qui a soif, il se cogne, il tombe, il se relève, il tombe par terre, il se cogne, mais il continue à tâtonner. Je dois le trouver. Où est Dieu? Je dois le trouver, car je sais qu'il n'est pas loin de moi. Pourquoi? J'ai soif. J'ai soif. Et le problème, quand tu deviens religieux, tu arrêtes de tâtonner. Pourquoi? Parce que tu es satisfait de ta relation avec Dieu. En fait, quand tu deviens religieux, en fait, tu sais quand, à quel moment tu sais que tu deviens religieux? Quand tu fais les choses sans le cœur qui va avec. Oh oh. Oh oh. Quand tu commences à faire les choses sans y mettre ton cœur. Quand tu sers pour servir, on vient chanter parce qu'on a besoin de chanter, on vient en chant. Et ça se voit. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier, soupir après toi. Car de ton... On voit que le cœur n'y est même pas. Donc il voit de quoi je parle. Tu es tombé, tu es devenu religieux et il t'a eu. Quand le cœur, tu n'y mets plus ton cœur pour faire les choses de Dieu, que tu es devenu religieux. Parce que la religion, il n'y a plus besoin de cœur. On fait les choses, tout est déjà établi, c'est automatique, on n'a pas besoin de ton cœur. Quand tu n'as plus ton cœur, quand tu te répètes que tu ne cherches plus, tu es devenu religieux. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Sors de là. Deuxième chose qui nous traite la soif, la tradition. La tradition, c'est la manière habituelle de faire et de voir les choses sans jamais se poser de questions. Sans jamais se demander pourquoi on fait ça. D'où ça vient? Est-ce qu'on peut faire mieux? Etc. Je reprécise. Avoir des coutumes, c'est-à-dire, par exemple, je prie trois fois par jour, comme Daniel, etc. C'est très bien. Dis avec moi, Amen. Dis Amen, s'il te plaît. C'est très bien. Mais quand, à chaque chose, tu fais toujours les mêmes choses, tu es toujours la même manière de fonctionner, ça devient la tradition, en fait. Tradition, tu ne sais même pas d'où ça a commencé et où ça arrive. Tu ne sais même pas. Au fait, papa, pourquoi on verse du vin ou de la bière sur le tombeau du grand-père, de grand-papa? C'est comme ça, tais-toi, regarde seulement. Vous savez, aux Antilles, il y a une tradition, en Martinique, particulièrement une tradition, c'est que beaucoup, au Nouvel An, on met des pépins d'orange dans le porte-monnaie. Qui connaît ça? Si tu l'as fait, repends-toi, vraiment. Et donc, le but, c'est que quand tu mets ton pépin dans ton porte-monnaie, passé le 31, tu es censé avoir de l'argent. Mais la vérité, l'argent t'attend toujours. Et les enfants tous les ans, il n'y a toujours pas d'argent, hein. Pas ni argent, hein, mais toujours là, toujours le pépin dans la poche. Mais il n'y a rien. D'où ça vient? On ne sait même pas. On ne se pose pas de questions. Certainement qu'il y en a un, je me suis dit, peut-être que ce jour-là, il avait une orange et puis il ne voulait pas jeter par terre, il a mis le pépin dans son porte-monnaie. Il est marché, il est tombé sur un billet de 50 euros, peut-être 50 francs à l'époque. Il dit, oh, ça marche. Faites comme moi. Et on ne sait même pas d'où ça vient, les gens font la même chose. C'est la tradition, ça. On se pose plus de questions. Pourquoi on fait? À quoi ça sert? On se pose plus de questions. C'est la tradition. Qu'est-ce qui tue la soif? Troisième chose. Les blessures de l'âme. Oh, quelqu'un dit qu'on a les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme qui sont arrivées par des échecs successifs. Tu sais, la soif, c'est une fonction de l'âme. La soif est une fonction de l'âme. Et une âme qui est restaurée sera une âme qui sera assoiffée. Une âme non restaurée sera une âme qui aura, en fait, on aura atteint sa soif. Et en fait, les blessures entraînées par les échecs, les déboires successifs, blessent l'âme et en blessant l'âme, tue la soif qui est une fonction de l'âme. Oh, est-ce qu'on me suit ce matin? Ça veut dire que, tu sais, et des quand tu as marché avec un frère, par exemple, c'est un frère, ou ton pasteur, ton ancien pasteur, pas ici, ça n'arrivera pas ici par la grâce de Dieu. Tu te rends compte qu'il est tombé, qu'il a fait des choses abominables. Ça crée une blessure dans ton âme et ça tue ta soif de Dieu. Il y a des blessures, il y a des choses que tu vis et qui te marquent dans ton âme et qui tuent et qui éteignent ta soif de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois toujours veiller à l'état de ton âme. Tu dois veiller à l'état de ton âme. Ne pas laisser la moindre amertume, la moindre frustration, la moindre colère, le moindre manque, pardon. Tout ça là, ça tue la soif de Dieu. Pourquoi? Parce que la soif est une fonction de l'âme. Quatrième chose qui tue la soif, qui éteint la soif, sont les grandes victoires. Oh! Dis avec moi les grandes victoires. Tu sais que ta victoire d'aujourd'hui, demain va s'avérer être ton plus grand obstacle sur le chemin de l'intimité avec le Seigneur. Quand tu as une victoire, acclame Dieu, bénis Dieu, mais avance. Je t'en prie, ne t'arrête pas. Avance. Pourquoi? Parce que souvent, une grande victoire amène un repos. Et en fait, c'est même pas un repos, c'est une extinction. Parce qu'on dit, il y a extinction et après, il y a suppression. Pourquoi? On est tellement gavé. Ah, j'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Ah ouais. Et c'est fini. On fait plus rien. Ça fait des mois que tu cherchais un travail. Dieu te bénit. Super job. Payé 3500 euros avec 13e mois. Waouh. Voiture de fonction, téléphone de fonction, PC, un Mac en plus. Pas le PC de... Non, un Mac. Tout ça à faire. Voyage dans toute la France, etc. Après, au bout d'un moment, frère, on ne te voit plus à l'église. Ah, frère, je travaille pour le Seigneur. Donc, ta bénédiction est devenue maintenant ton opposition face à Dieu. Tu as tellement été béni. Ah non, mais tu sais, si ça marche tellement la boîte, tu sais, ça marche super. Dieu m'a vraiment béni, quoi. Mais Dieu t'a béni pour être une source de bénédiction. Comment tu vas être une source de bénédiction si tu n'es pas au contact des frères? Dis-moi un peu. Non, Dieu m'a trop béni, tu vois, je suis trop pris, il y a trop de choses à faire, trop de... Oh! Donc maintenant, la bénédiction t'éloigne de Dieu. Qui voit de quoi je parle? Quand tu as une victoire, acclame, bénis Dieu. Mais surtout, ne t'arrête pas là. Avance encore. Cinquième chose qui tue la soif, c'est l'activisme. Quelqu'un dit avec moi l'activisme. Je ne t'ai pas entendu, l'activisme. L'activisme, vois-tu, c'est lorsque le service prend la place de Dieu. Quand je parle de service, je parle de service à l'église, mais je parle également de service dans le monde. Parce que vois-tu, le ministère, on nous l'a enseigné ici, s'exerce à trois niveaux. Envers Dieu, envers l'église et envers le monde. Et donc, l'activisme, c'est quand ton service prend la place de Dieu. Tu es tellement accaparé, tu es tellement... Tu donnes tout ton temps, ton talent, tout est mis pour ton service. Et tu oublies de prendre le temps de venir te mettre au pied du Seigneur. Tout comme Marie et Marthe. Marthe s'activait, etc. Jésus dit, mais calme-toi. Tu t'actives pour bien peu de choses. Regarde, Marie, elle a choisi la bonne part. Elle est là. Et elle sait, elle est venue auprès de moi, dans ma présence. Et l'activisme, c'est quelque chose qui éteint ta soif. Pourquoi? Tu es tellement accaparé par ton service, si bien que ton service devient ton Dieu. Au lieu que tu serves le Dieu du service, tu sers maintenant le service. Tellement il a pris toute la place. Et sixième chose qui éteint la soif, c'est les mauvaises compagnies. Bien-aimé, il y a des relations qui tuent ta soif. Il y a des présences, quand tu les quittes, en fait, tu te demandes, Seigneur, aide-moi à ne pas pécher. Ou aide-moi. En fait, et donc, quand tu quittes, tu as envie de retomber dans tes anciens travers, tes anciens morceaux que tu écoutais avant. Tes anciens chants, tes anciennes... je sais que tu vois de quoi je parle, je sais. Et en fait, quand tu sors de là, c'est que tu n'as même pas... Dieu, c'est comme si Dieu était un peu plus loin de toi. Et en fait, c'est que tu te poses la question, mais... Seigneur, garde-moi. Qui voit de quoi je parle? Il y a des relations, mes aimés. Qui éteint ta soif? Franchement, ce gars-là, Ce Donzel français qui marche comme ça. Des marches chaloupées. Épaules larges. Mâchoire carrée. Comment vas-tu? Quand je t'ai vu, j'ai eu une hausse de tension. Et ensuite, j'ai eu une coupure interne. Quand je t'ai vu, mon corps a fait boum boum. Boum boum. Boum boum. Pourquoi tu es là? Pasteur, mais je prie pour lui. Mais lui, c'est d'être sauvé, pasteur. La volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé, non? Seigneur, il va venir. Pasteur, je prie pour lui. Non, non, il va venir au Seigneur, je prie pour lui. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais que ça tue ta soif. Et toi, mon frère, parce que toi aussi, toi aussi. Elle marche comme ça. Ah ben c'est vrai, excusez-moi. Frère, il y a des gens qui. Il y a des relations que Dieu lui-même a tuées dans ton répertoire. Il y a des gens que Dieu lui-même. Il y a des relations que Dieu lui-même a tuées certaines relations. Toi, tu t'obstines à les faire vivre. Tu la bouche à bouche. Respire. Reviens à la vie. Reviens. Je t'en supplie, ne meurs pas. Je t'en prie, ne meurs pas. Dieu lui-même a tué la relation. Toi, tu es là. Alors que Dieu lui-même est à l'œuvre. Ressuscite au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le. J'envoie le feu par la puissance. Reviens. Mais Dieu lui-même l'a chassé de toi. Dieu lui-même l'a éloigné de toi. Toi, tu passes à le faire revenir. Il y a des relations qui sont là. Il y a des contacts que tu as pour une saison, pour une circonstance, pour la vie. Il y a des relations, tu sais. Qui t'éloigne du Seigneur, qui tue ta soif, et tu le sais. Dis-moi une chose, tu ne lui dois rien. Je vais te dire une chose, tu ne lui dois rien. Dis-moi. Non, mais je dois quelque chose. Tu sais quoi? Qui t'a donné le souffle de vie, au fait? Dis-moi, c'est lui? Qui te donne le souffle de vie? Je parle à quelqu'un ce matin, c'est pour quelqu'un ce matin que je dis ça. Qui te donne le souffle de vie? C'est lui? Qui te donne la force d'intelligence? C'est lui? Qui veille sur toi? C'est lui? Que lui, il a la force de te garder en vie. Qui te maintient en vie? C'est qui? C'est Dieu seulement. Tu ne lui dois rien. Avance. Trace ta route. Avance. Ne tombe pas dans le piège de la fausse culpabilité. Avance. Trace ton chemin. Avance. Dis à ton voisin. Avance. Dis à l'autre. Avance. Dis à l'autre encore. Avance. Tu ne dois rien à personne. Seulement à Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Tu dois avancer. Peut-être te retenir par la culpabilité. Oui, mais j'ai fait ça pour toi à l'époque. Ça, c'est la culpabilité, ça. Quelqu'un qui aime ne retient pas les gens comme ça. Non, mais j'ai. C'est moi que tu veux laisser tomber. Et même pas de larmes. Hein. Mais c'est moi. Attends d'abord. C'est. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Manipulation. Manipulation. C'est de la manipulation. Tu ne dois rien à personne, hormis à Dieu. Devez-nous aimer les uns les autres. Aime-le, c'est point, c'est tout. C'est ce que Dieu te demande. Aime-le et puis tu t'arrêtes là. Avance! Avance! C'est tout. Aime-le et puis tu avances. Tu ne dois rien à personne. Quelqu'un me dit un bon amen. Je vais finir avec ça. Comment entretenir la soif? Comment entretenir la soif? J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul. Seigneur, j'ai besoin de toi. Comment entretenir la soif? Premier élément, la prière. Dis-moi la prière. La prière. Pourquoi? Tu sais que tu dois prier pour avoir soif de lui. Bien-aimé, c'est pas automatique. Tu dois prier chaque jour pour avoir soif de lui. Amos 8, verset 11. Prenons vite rapidement Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dieu veut envoyer une soif de lui. Est-ce que tu es concerné? Est-ce que tu es concerné? Si ton cas, ça me dit amen, je suis concerné. Si ça, moi, ça me concerne. Ça me concerne. Il est prêt à envoyer cette soif, cette faim de lui. Seulement de lui demander. Tout le temps, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Car Dieu produit en toi le voir et le faire selon son bon plaisir. Et tu dois demander chaque jour au Seigneur, attise cette soif. Cette semaine, il y a jeûne et prière, je crois. Oh, qui sera là pour crier à Dieu, j'ai soif de toi. Pour crier à Dieu, Seigneur, moi j'ai soif de toi. Que cette semaine, on puisse lui dire, Seigneur, c'est toi que l'on veut. C'est toi que l'on désire. On est là pour toi et toi seul. Si on veut plus de toi, uniquement plus de toi, seulement toi, rien d'autre que toi, on te veut, on te cherche. C'est toi que je veux. Combien seront là? La prière. Tu te demandes chaque jour, Seigneur, j'ai besoin, j'ai soif de toi. Augmente, attise, entretiens, nourris, augmente ma soif. Deuxième chose qui, après la prière, c'est la sincérité. Dis avec moi la sincérité. En fait, sincérité, ça veut dire que, tu sais, le canal de la prière peut être bouché si tu n'es pas sincère dans tes prières. Si tu n'es pas sincère, tu peux boucher la prière. En fait, être sincère, ça veut dire, ne va pas dire ce que tu ne penses pas. Ne va pas dire à Dieu ce que tu ne penses pas. Ne chante pas, j'ai besoin de toi si tu n'as pas besoin de lui en réalité. Quand c'est comme ça, et que tu es dans cet état-là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Seigneur, mon zèle s'est éteint. Ma foi s'est éteinte. Mais ramène-moi à toi. Je veux à nouveau avoir besoin de toi. Je veux à nouveau dépendre. Tu dois être sincère. Ne va pas dire des belles paroles si tu ne les penses pas. Je t'en prie, ne dis pas des choses que tu ne penses pas. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est exprime l'état de ton âme à Dieu et implore son aide et sa grâce. Oh, qui me suis ce matin. Exprime l'état de ton âme et implore de l'aide et l'assistance du Seigneur. Implore son aide, son assistance. Parce que rappelle-toi, la soif est une fonction de l'âme. Et si tu n'es, et c'est dans l'âme que ça se passe. Donc exprime l'état. Dis, Seigneur, là, il y a ça. Je t'en prie, aide-moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai fait ça. Je connais que j'ai manqué de pardon. Je connais que je me suis éloigné. Mais Seigneur, ce matin, je reviens. Je t'en supplie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Sois sincère. Tu sais, Dieu te demande. Moi, j'ai compris une chose. Depuis que j'ai compris, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Dieu ne te demande pas d'être performant. Pourquoi? Il est performant pour toi. Il est performant pour toi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu ne demande pas d'être performant, il est performant pour toi. Tout ce qu'il te demande, sois authentique et sincère devant moi. Je ferai le reste, je m'occupe du reste. Le reste, fait mon affaire. Ben, mais depuis que j'ai compris ça, moi-même, je suis surpris des choses que Dieu fait à travers de moi. Parfois, je me dis, ah, c'est moi ça. Mais en fait, j'ai compris une chose. Tout ce que j'ai besoin, c'est lui. Si j'ai lui, j'ai tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement chercher lui, c'est tout. Et quand ça ne va pas, au lieu de jouer le faux, ouais, machin, non. Seigneur, je reconnais que là, la soif n'y est pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, je vais vous partager une anecdote. Je n'ai pas prévu de le dire, je vais le dire quand même. Cette année est une année très compliquée pour moi. L'église a avancé, gloire à Dieu. Les deux cultes sont en train de se remplir. On est en train de parler du troisième culte. On a fait l'anniversaire il y a un mois, il y avait plus de 800 personnes. Il y avait 800, c'était formidable, c'était puissant, plein de témoignages, c'était formidable. Mais j'ai vécu une année compliquée, où j'ai commencé à expérimenter ce qu'on appelle la trahison. C'est bien, quand tu l'entends, on le dit, tu le dis, même tu le prêches même. Quand tu le vis, c'est autre chose. Et vraiment là, j'avoue, j'avais été touché. Il arrivait un dimanche à l'église, j'étais revenu de la conférence, et je prêchais en descendant, j'ai vu un frère avec sa famille, qui vient me voir, il me dit, Dieu me dit de te voir. Moi, quand j'ai envie de me dire, Dieu m'a dit de te dire là avant. Moi, bon, ça ne m'impressionne plus du tout. Il vient me dire, écoute, Dieu me dit de te dire qu'il a permis ça pour t'endurcir. Je dis, ah bon? sais, quand ça vient de Dieu, Tom, tu sais que... Et il me dit, quand vous êtes monté sur la chair, j'ai vu que vous avez une tache de sang ici, sur votre poitrine, et que ça vous a fait mal. Mais Dieu me dit de vous dire qu'il a permis ça pour vous endurcir. J'ai été convaincu tout de suite. Et c'est vrai, j'avais été blessé, j'avais été marqué, parce que j'avais pris soin de certaines personnes, et je me suis rendu compte que ces gens-là se retournaient contre moi et me discréditaient dans l'église. Alors que j'avais donné du temps pour ces personnes-là. Ça m'avait vraiment blessé. Et j'avoue, je me suis rendu compte que là, non, j'étais touché. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis juste mis devant Seigneur, Seigneur, je reconnais. J'ai été blessé. Ça m'a atteint. Mais Seigneur, je t'en prie, ne me laisse pas ainsi. J'ai tant besoin de toi. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, Seigneur? Et j'ai crié à Dieu. Dieu a enlevé. Aujourd'hui, ils sont toujours dans l'église, ces gens-là. Je les vois, je les embrasse. Je leur serre la main. Je n'ai plus rien dans mon cœur. Pourquoi? Il a fait le travail en moi. J'ai été authentique et sincère. C'est tout. Et les choses que tu vis qui te donnent envie de dire, si c'est vraiment, on sert Dieu, on fait tout ça pour eux, voilà comment on est remercié. T'as envie de laisser la main de Dieu. Mais quand tu l'as connu, quand tu as connu, tu as un peu goûté Dieu. Seigneur, où est-ce que je vais aller? J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai tant besoin. Cette blessure que tu as dans ton cœur ce matin, expose-la au Seigneur. Parce que tant qu'elle est là, la blessure dans ton âme éteint la soif. Expose-la à Dieu. Il s'occupe du reste. Il ne te demande pas d'être performant. Rappelle-toi, il est performant pour toi. Il est performant pour toi. Plus tôt tu le comprends, plus tôt tu seras tranquille dans la vie. Quelqu'un peut-il me dire un bon amen? Est-ce que je peux entendre un bon amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dernier point. Je finirai là-dessus. Les bonnes associations. Choisis les bonnes associations. Ça veut dire, fréquente les sages. Fréquente les gens qui craignent Dieu. Fréquente les gens qui craignent plus Dieu que toi. Associe-toi aux gens qui aiment Dieu. Vous savez, aimer Dieu, je vous ai dit, aimer Dieu, c'est aimer ses commandements. Selon 1 Jean 5, verset 3. C'est aimer les commandements de Dieu. Ils ne sont pas pénibles. En fait, tu dois fréquenter ceux qui craignent, ceux qui sont assoiffés de Dieu. En fait, tu dois avoir dans ton cercle des amis, comme dans Marc 2, de verset 2 à 5. Vous savez ce passage de cet homme sur son lit, avec ses quatre amis qui l'ont transporté. Vous connaissez ce passage? Marc 2, vous le lirez de 2 à 5. Il y avait quatre amis. Quatre personnes ont transporté un de leurs amis qui était paralysé sur un lit. Ils voulaient l'emmener pour être guéri. Donc ils arrivent devant le Seigneur, ils arrivent dans la maison du Seigneur, et la maison, il y a du monde partout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tour de la maison, ils vont autour de la maison, ils voient un mur, ils disent on va escalader le mur. Imaginez-vous ça, le gars est sur son lit comme ça, il est déjà mourant. Et il y en a un qui monte, certainement s'appeler Bartholoméus et Apollonius. Il monte en premier, il dit allez, tendez-le. Imaginez-vous le gars. Dans son lit, il a simplement dû l'attacher. Il était comme ça. Sinon, j'aurais dû mourir avant, en fait. Oh, je suis venu mourir ici. Oh mon Dieu. On le tire. Il le remonte, ils arrivent sur le toit. Après arriver sur le toit, ils commencent à enlever la paille, enlever tout ça. J'imagine Jésus en train de prêcher tranquillement. Ils sont du soleil sur ça. Hey! Et ce qui est fort, c'est qu'ils ne l'ont pas mis n'importe où. Ils l'ont mis au pied du Seigneur. Ils n'ont pas mis à gauche ou à droite, ils l'ont amené au pied du Seigneur. Tu dois avoir des amis qui savent toujours te ramener au pied du Seigneur. Ils n'ont peut-être pas toutes les solutions, mais ils savent t'amener au pied du Seigneur. Ils n'ont pas toutes les capacités, mais ils ont une chose, ils savent te ramener au pied du Seigneur. Parfois, ils n'ont pas de puissance, mais ils savent te ramener au pied du Seigneur. C'est là que tout se passe à ses pieds, devant le trône de grâce. Tout se passe là. Et tu dois avoir des gens comme ça, qui savent te reprendre avec amour, qui savent t'amener avec amour, toujours à l'essentiel, au pied du Seigneur. Tu dois avoir des amis comme ça. Ce sont ces gens-là que tu dois fréquenter. Et en plus, non seulement ce qui est fort dans cette histoire, vous savez ce qui est fort, c'est que cet homme-là n'a pas été guéri à cause de sa foi. C'est la foi de ses quatre amis qui l'ont guéri. Le verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, c'est qu'il a vu la foi des quatre. À cause de ces quatre-là, il a guéri. Bien aimé, il y a des amis qui t'ouvrent des portes extraordinaires. Il y a des gens, à leur contact, ils t'ouvrent des portes extraordinaires. Comme moi, par exemple. Tu sais, grâce à moi, parfois, je ne vais pas te prendre. Mais quand je vais arriver avec moi, il va dire, ah, tu connais Freddy. Bon, à moi, à cause de lui. Hein. Mais vraiment à cause de lui. Vas-y, vas-y, passe, vas-y, vas-y, rentre, rentre. Vini. Pourquoi? Nous sommes modestes. Non, mais comprenez-moi, il y a des relations qui trouvent des portes extraordinaires. Il y a des relations qui trouvent des portes extraordinaires. Tu sais, avant une relation avec quelqu'un, tu n'es pas obligé de connaître la personne, mais tu peux être connecté à ce qu'il a produit. C'est aussi une relation. Il y a des gens, il y a des gens que tu n'as pas besoin de connaître, mais si tu es connecté à ce qu'ils sont en train de faire, c'est une relation, une connexion pour toi. Et ça trouve des portes extraordinaires. Mais comment je fais pour trouver ces bonnes connexions, bien-aimé? Comment? Parce que tu sais, il y a tellement de... Tu sais, il y a des connexions haut débit, des connexions faux débit. Non, non, entends bien. Il y a des connexions haut débit et des connexions faux débit. C'est même pas bas, c'est faux. C'est qu'il n'y a rien en fait. Pas de bonne passante, il n'y a rien. Donc tu dois t'assurer que cette connexion est une connexion haut débit. Comment tu le sais? C'est le lieu secret. C'est là que l'époux... Mais qui mieux que l'époux connaît ses amis? Qui mieux que l'époux connaît ses intimes? Il dit, oh, lui c'est un intime à moi, c'est bon, on va le fréquenter. C'est un de mes intimes aussi, va le fréquenter. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Y a-t-il un assoiffé parmi nous ce matin? Y a-t-il un assoiffé parmi nous? Quelqu'un veut être assoiffé de Dieu ce matin? Je proclame sur ta vie que lorsque ta soif avait été éteinte, elle est ranimée ce matin au nom de Jésus-Christ. Il ravive ta soif de lui ce matin. Il ravive ta flamme, il ravive ton zèle. Ta foi est ravivée ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de... Elle est ranimée ce matin. Bien-aimé, il y a tant d'exploits que tu dois accomplir et que nous devons accomplir tous ensemble à titre collectif. Vous savez, je finirai là-dessus. Vous savez, beaucoup de je finis, je sais. Je vais vraiment finir là. Je vais vraiment finir là. Ne dites à personne, s'il vous plaît. Hein, c'est sur Internet. Oh mon Dieu. Vous savez, on est souvent, nous, les, entre guillemets, les chrétiens, les gens du royaume, on est souvent fort à critiquer les aînés des religions. Ah, eux, c'est les religieux, eux, c'est les hic, c'est les temps, c'est les... Hein? Mais, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Quelles sont les écoles qu'on a créées? Quels sont les hôpitaux qu'on a créés? Ces soi-disant, par exemple, qu'on traite de religieux, ils ont fait des hôpitaux. Ils ont fait des orphelinats, ils ont fait des écoles, ils ont fait des universités, des grandes choses. Et nous, en quoi contribuons-nous au développement du pays où nous sommes établis comme ambassadeurs? En quoi est-ce qu'on contribue? Ensemble, on va faire des choses extraordinaires. On a tout pour réussir. On a tout. Et en plus, on a le Saint-Esprit et les dons spirituels. Là où quelqu'un s'arrête au niveau naturel, toi, tu avances dans le spirituel. Et même s'il veut aller dans le spirituel, toi, tu es encore au-dessus de lui dans le spirituel. Pourquoi? Tu es au-dessus de lui, donc, tu es au-dessus de toutes les dominations en Christ Jésus. Donc, tu es toujours au-dessus. Donc en réalité, on devrait faire de grandes choses. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu d'intimes de Dieu. La vérité, beaucoup sont dans la foule, beaucoup sont des sympathisants, des disciples, mais très peu d'intimes. Or, c'est là que tout se passe. Et plus nous serons nombreux à être des intimes, plus le monde changera par nous. Les amis. J'ai besoin de toi. On va prier ce matin. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin. Ce matin, tiens-toi debout si tu le peux dans sa présence. Et lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, j'ai tant besoin de toi. Ce matin, exprime ton âme, révèle, réprime, exprime ton âme devant lui, répands ton âme devant lui. Ce matin, dis-lui à quel point tu as besoin, à quel point tu veux être assoiffé, à quel point tu le désires. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tout en moi soupire après toi et après toi seul. Seigneur, j'ai tant besoin. Remplis mon âme,
âme. Restaure-la, je t'en prie. Relève ma soif, j'ai tant besoin. Tu es mon essentiel, mon abri sûr. Sans toi, je ne suis rien, j'ai tant besoin. Seigneur, j'ai été éteint. On a éteint ma soif. On m'a endormi, anesthésié. Ce matin, je veux crier. Ravive mon zèle, ravive ma flamme et ma passion. Je t'en supplie, j'ai tant besoin. Ce matin, tu sais, tu reconnais que ta soif a été éteinte. Ta passion, ton zèle, n'est plus ce qu'il était. Là où tu es, lève la main seulement. Lève la main seulement, là où tu es. Allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur Jésus, répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. J'ai entendu ta parole ce matin. Aujourd'hui, je reviens à toi de tout mon cœur. Je t'en supplie, aie compassion de moi. Ravive ma soif, ravive la flamme qui était éteinte. Sors-moi du filet de l'oiseleur. Sors-moi du piège où j'étais retenu captif. Ce matin, par ta grâce, je me libère. Je sors, j'en sors, et je choisis d'avancer avec toi, étape après étape, pour quitter les rangs de la foule, des sympathisants, des disciples, pour devenir un intime. Seigneur, accorde-moi la grâce d'entretenir cette soif qui a été attisée ce matin. Accorde-moi la grâce de garder, de préserver cette soif, cette flamme, ce feu que tu as allumé en moi ce matin. Je te rends grâce. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen, amen. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. De toi seul. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi.
Oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Tu tiens nos vies entre tes saintes mains. En toi, il y a tout. Avec toi, nous